Bonjour à tous, bienvenue sur le 65e épisode de Comic City, épisode du mois de mars. Je suis avec Mr. René Bunny, tu vas bien?
Ouais, ça va, il fait beau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Et les lectures ont été dures.
Pas tant que ça, finalement j'ai lu beaucoup plus que ce que je pensais et j'ai rattrapé pas mal de choses ce mois-ci. Donc du coup, finalement on se retrouve avec énormément de choses à parler. Ça veut pas dire, c'est même pas français à chaque fois qu'on dit ça. Énormément de choses à traiter, peut-être, c'est
Oui,
mieux.
voilà, c'est mieux.
C'est beaucoup mieux. Et du coup, voilà, donc il va falloir faire pas mal d'express, je pense, cette fois-ci.
Et puis comme d'habitude, hein, on ne peut pas traiter toute la production comics française. Donc on a décidé ce mois-ci de ne pas traiter Glénat, tout simplement parce qu'au moment où on enregistre, tout n'est pas encore sorti.
Bah normalement tout
Et
sort demain.
on enregistre le 27 mars. Déjà qu'on enregistre assez tard ce mois-ci, encore une fois, on n'a pas pu avoir toute la production, on n'a pas pu avoir les kiosques urbains non plus. Bon, on en reparlera au moment où on fera la partie sur Urban, mais voilà, on traitera Glénat un peu plus le mois prochain. On regardera ce qui est sorti, et on parlera des choses que l'on juge intéressantes. Déjà qu'on a énormément de trucs. Du coup, on va commencer comme d'habitude avec une petite partie de news. On n'a pas grand-chose en news, hein. C'est un peu la galère, honnêtement. On a un peu de mal avec le temps à lire, à aller chercher des news, enfin, et à faire le weekly, et à faire le Comic
Il y a surtout plus
City.
de news VO finalement que de news VF à traiter, hein. Là, les news VF, bah on va en parler. C'est toujours Panini,
Oui, bah oui, Panini,
essentiellement.
oui. Donc Panini qui nous tient un petit peu au courant, hein. Il y a toujours ce projet d'album par souscription qui prend forme, qui sera. Alors la mise en précommande se fera sur la page Facebook de Panini à partir du mois de mai. Je crois qu'on l'avait déjà dit, l'album en souscription cette année, parce qu'il n'y en aura qu'un cette année, ce sera la mini-série Omega The Unknown, qui est une mini en 10 si ma mémoire est bonne. Donc du coup la souscription se fait en mai, ça dure pendant 3 mois. Et apparemment les gens qui feront la souscription par Facebook auront un petit cadeau.
Ah bon,
On n'en sait
d'accord.
pas plus. Pour le moment, autre chose dans les futures parutions Panini Marvel, donc, le format des séries étant passé de 22 à 20 pages, ils vont faire évoluer un petit peu l'heure mensuelle, et notamment Wolverine et Deadpool, qui à partir du mois de juillet passeront de 48 à 64 pages et contiendront 3 épisodes, pour une augmentation, dixit la newsletter, quasiment le même prix.
Bah à mon avis,
Quasiment.
ça va atteindre le prix des magazines, par exemple X-Men et Spider-Man, sauf que au lieu d'avoir 4 numéros VO, on en aura 3.
Voilà, donc quasiment le même prix, hein, ça veut dire qu'il y aura quand même une augmentation, faut pas se leurrer. On verra comment ils vont faire ça pour les prochains. Enfin pour les autres séries, hein, les autres kiosques. Pour le moment, pas trop d'informations là-dessus, on verra. On continue avec le Magicien d'Oz qui devait sortir en album Marvel Select.
Ouais.
Et vu que ça risque de poser des problèmes pour certains lecteurs, arriver à différencier les différents types de collections, ça restera toujours dans ce format-là et ce genre de prix-là, mais ce sera une autre collection. Magicien d'Oz, j'attends avec hâte la sortie en France, que tout le monde puisse découvrir ce petit bijou. Moi, j'ai trouvé ça génial. Enfin voilà, c'est très poétique, très
Mais alors,
enfantin.
c'est de qui déjà?
Scotty Young.
D'accord.
Un design très particulier, mais voilà, c'est fin, j'adore quoi. C'est vraiment, très agréable à lire.
Et est-ce qu'il a changé un petit peu l'histoire du magicien d'Oz ou il a repris vraiment
Alors,
le
il a
nom?
repris, et puis ensuite, c'est véritablement une adaptation pour la première mini-série qui est en 8 épisodes, et puis ensuite, il y a d'autres mini-séries qui se passent dans cet univers.
C'est marrant parce que ça inspire beaucoup de créateurs de comics quand même, le
Ah, mais
magicien d'Oz.
c'est un classique de la littérature américaine,
Oui.
enfin, la littérature anglo-saxonne, on va dire.
Et puis avec ce film, cette comédie musicale d'ailleurs avec Judy Garland, que j'ai regardé des centaines de fois, je pense, quand j'étais petit. C'est le premier film que j'ai vu de ma vie.
Sans oublier l'adaptation avec Michael Jackson.
Oui, mais moi je me souviendrai surtout de Judy Garland et de ses chaussures. Non, d'ailleurs, c'était pas des
Oui, si,
chaussures.
si, c'est
Enfin,
des
si,
chaussures.
des trucs rouges là.
Oui, les chaussures, mais les chaussures magiques.
Les chaussures magiques qu'il faut claquer trois fois, je crois, ensemble pour retourner.
Ah, tu spoiles la fin! Bon, enfin bon, c'est
Grand
pas.
Dieu. Mais non, oui, franchement, le magicien d'Oz, c'est mythique.
Ah,
Mais
mais.
je parle de ça parce qu'il y a cette fameuse série nouvelle dont on a parlé dans les weekly.
No Place Like Home.
Voilà, No Place Like Home qui reprend aussi un petit peu ce thème.
Mais je t'encourage à te procurer cette version ou alors à attendre la sortie française parce que, enfin, moi franchement, je l'ai trouvée vraiment excellente, quoi.
Bon,
C'est
bah
vraiment
écoute.
très bien écrit, c'est prenant de bout en bout et enfin voilà, c'est vraiment génial.
Ok, bah écoute, pourquoi pas.
Allez, pour terminer sur les news Panini, des petites news concernant le sort de l'univers Captain America, puisqu'on peut parler d'univers, hein, on a pas mal de séries. À la fin de Fear Itself, nous aurons une nouvelle série qui s'appellera Winter Soldier. Alors, est-ce que ce sera quelqu'un que l'on connaît, un nouveau personnage? Bon, les lecteurs VO le savent déjà, la série est déjà commencée.
Est-ce que ça se situe dans le passé, dans le présent?
Ça se situe dans le présent, on va quand même le dire, mais voilà, bon, on n'en dira pas plus.
Bah moi
Alors.
je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait de Hawkeye le nouveau Winter Soldier.
Comme si c'était possible avec la sortie du film.
Bah.
Monsieur menteur. Oh, c'est pas bien. Alors, il y a pas mal de changements. Donc, il y a cette série de Winter Soldier qui finalement ils ont décidé de publier ça dans Marvel Knights, puisque la série Ghost Rider hein, qui vient de commencer dans ce nouveau magazine Marvel Knights ne va pas faire long feu. Elle s'arrête au numéro 8.
9, oui, 8 ou 9, moi je sais plus.
Ouais, je sais plus l'angle, enfin bref. Donc elle prendra la place dans Marvel Knights. C'est pas plus mal parce que finalement au niveau du type de la série, ça correspond bien. Un petit peu plus street level caractère que super-héros, je trouve.
Ouais.
En tout cas, pour ce qu'on en a lu pour le moment, moi j'ai lu que les deux premiers, j'ai pas encore lu le 3. Mais jusque-là, ouais, voilà. Pour moi, ça a plus sa place dans Marvel Knights que dans un magazine de type Avengers. Dans Avengers, nous aurons la série Cap et Hawkeye. Enfin, qui s'appelle en
Donc
fait
le
Cap
nouveau
et.
Winter Soldier.
Oui, parce que alors, en fait, la série Captain America, vous l'avez peut-être remarqué, s'est arrêtée au 620 et est devenue ensuite Cap et Bucky. Alors Cap et Bucky, ce sont des récits de Captain America et de Bucky pendant la Seconde Guerre mondiale, donc des récits datant vraiment dans le passé. Ça, ce sera publié dans des Avengers Extra.
Ouais. Mais attention, pas tous, je crois. Je crois qu'il y a aussi des trucs qui se situent dans le présent ensuite.
Ah, ça, je sais pas, par contre. Moi, c'est pas une série
Il
que
me
j'ai suivie.
semble, en avoir lu récemment qui se situait dans le présent. Bref, c'est compliqué hein, tout ça. Et sachant que ça s'appelle Captain American Bucky, mais ça a quand même gardé l'ancienne numérotation aussi.
Voilà, ça a gardé l'ancienne numérotation, mais là où c'est encore plus drôle. Bon, alors ça, donc ça, c'est publié dans Avengers Extra. Il y en aura un en 2012, un en 2013. Voilà. Le plus drôle, c'est qu'en fait, la série va continuer, mais changer de titre à nouveau, s'appellera Cap et Hawkeye, et en réalité, va s'appeler Cap et, puisque ce sera des arcs avec Captain America en tandem avec quelqu'un. Ça, on le sait depuis maintenant quelques semaines. Cap et Hawkeye, donc, enfin, en tout cas, cette mini-série-là sera publiée dans les pages de Avengers. À partir du mois d'août. Donc là, les délais de traduction sont très courts parce que je crois que ça sort en avril, si mes souvenirs sont
Il y avait
bons.
une série Captain America and Falcon, je crois.
Oui, qui avait duré 12-13 épisodes, quelque chose comme ça.
Ouais.
Donc là, ouais, voilà, chaque arc, après chaque arc, donc 4-5 épisodes, ça va dépendre, Captain America changera de partenaire et ce sera vraiment un ancien Marvel team-up ou truc comme ça, mais avec Captain America cette fois-ci.
Et du coup, est-ce qu'on sait en français où sera publié Avenging Spider-Man?
Pour le moment, pas que je sache, ou j'ai peut-être raté la news, c'est aussi possible, hein, mais je ne crois pas pour le moment. On ne m'étonnerait pas que ce soit publié dans les pages de Spider-Man.
Ou bien alors, tout simplement, en album.
Parce que ça mérite un album.
Oh, tu sais, ils en seraient capables, avec des artistes comme ça. Enfin bon, de toute façon, on en parle plus tard, vu qu'on n'y est pas encore en français. Vu que Spider-Man a toujours du retard.
Ah oui, c'est le problème, c'est que l'opération Flash Forward marche, mais
Pas pour tout le monde, ouais.
pas pour Spider-Man. Bizarrement, Spider-Man reste vraiment la traîne. On avait eu un petit peu d'avance avec l'arc Origin of the Species qui avait été publié à part.
Ouais.
J'espérais qu'on continue comme ça en nous publiant quelques gros arcs à part, et apparemment non. Spider Island, qui arrivera cet été, bénéficiera aussi d'un Monster pour les titres tie-in en août, je crois.
Oui, je
Oui, en
crois que tu
août.
m'avais annoncé 304 pages quand même, hein,
Ouais,
le petit
304.
bébé.
Ben, un Monster, quoi. Celui de Hulk, ce mois-ci, fait 309 pages, je crois.
Ah oui, d'accord. Ok.
304 aussi, pardon. De toute façon, 309, ça peut pas être logique, ça peut pas tomber sur un chiffre impair.
Oui,
Je
je
sais
sais.
pas pourquoi j'ai 309. Ok, donc bon, voilà, c'est un petit peu tout pour les news. On n'a pas grande chose de plus pour le moment. Donc on va entamer directement sur les reviews, je pense.
Oui, bah de toute façon, on aura des news plus importantes dans les mois à venir, avec notamment les sorties cinéma, dont on ne manquera pas de parler, hein, j'imagine.
Ah non, 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 non. On a décidé qu'on le ferait pas.
Mais d'ailleurs, attends,
Si, 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 si.
rappelons-le, Avengers, il sort bientôt, non? C'est pas en avril?
Oui, il sort bientôt, oui, effectivement. Une petite news ciné, il y a eu un. Bon, vous êtes sûrement déjà tous au courant, il y a eu un trailer japonais de Avengers où il y a des images inédites. Si vraiment vous voulez avoir plein d'images avant la sortie du film, ce que je ne vous conseille pas, mais
Il y a
à vous de
même
voir.
une apparition du Megazord.
Ouais, ça, Enfin voilà, bon, après, si vous voulez avoir vu quasiment tout le film avant, bah, c'est vous que ça regarde, mais moi personnellement je l'ai pas été le voir. Je préfère découvrir le plus possible au cinéma. On a déjà vu la bande-annonce, ça me
Là,
suffit.
quand même, ça a l'air, honnêtement, hein, les images que j'ai vues, ça a quand même l'air de claquer pas mal.
Ah bah oui, c'est pour ça que je veux avoir la surprise vraiment au cinéma au maximum, quoi. Je veux pas tout savoir d'avance.
Contrairement à Spider-Man, d'ailleurs, je ne savais pas, parce que je ne lis absolument pas de magazine People, je m'en fous royalement, théoriquement, des news People, mais j'ai appris que Andrew Garfield, donc le nouveau Spider-Man, se tape Emma Stone, sa partenaire, donc Mary Jane, et non.
Gwen Stacy plutôt.
Oui, bah oui, en plus c'est vrai, pourtant je dis Mary Jane parce qu'elle est rousse, Emma Stone dans la vraie vie, et elle aurait fait une bien belle Mary Jane, je trouve, et malheureusement, bon bah c'est Gwen Stacy. On remarque, ça lui va aussi très bien. Mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Personne ne doit toucher à Emma Stone. Donc du coup, je pense que si je vois Amazing Spider-Man au cinéma, à mon avis, je serais pas très très positif sur ce film, bizarrement. Mais au moins je suis honnête, tu vois, je suis honnête de te dire que je ne serais pas honnête.
Mais honnêtement, je ne vois même pas sa tête. Donc,
Ah, Emma Stone?
oui, non, mais
Oh.
ce sont vraiment des considérations qui sont très très loin de moi, en fait. Donc,
Oh, bah tu verras que la considération, elle arrivera vite quand tu la reverras sur le grand écran, ou
ouais,
même sur
mais
le petit.
honnêtement, je ne sais pas si je me déplacerai pour Amazing
Non, non,
Spider-Man.
mais enfin tu verras forcément des images d'Emma Stone.
Oui, bien sûr, mais j'en ai vu, mais j'ai plus de souvenirs de son physique, en fait, tout
Ah
simplement.
bah, je pense qu'elle met Kirsten Dunst au placard et de loin, quoi.
Oui, enfin, en même temps, c'est pas difficile.
Oui, c'est vrai que mais, je sais pas, j'ai
Non.
jamais compris cet
Moi non
engouement, mais
plus,
bon.
j'ai pas compris non plus. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour discuter des goûts des
Bah,
couleurs.
tu as le droit aussi de s'exprimer. Quelle est votre Mary Jane préférée? C'est pas bien. Tu vois, je
Mais si, c'était Mary Jane là.
Oui, non mais.
L'embourbage.
Enfin bref, bon bref. Quelle est votre actrice préférée? Bordel de merde. Voilà.
Je pense que le bordel de merde fait l'ensemble de la question. Ça résume le point de vue. Mais oui, n'hésitez pas à nous dire celle que vous préférez comme partenaire de Spider-Man.
Voilà. Si vous préférez tant mais vous avez le droit aussi.
À travers les âges.
C'est ça. On va peut-être commencer donc les reviews, on en a beaucoup.
Ouais. On va commencer ce mois-ci avec le blog Delcourt. Pour une fois, c'est vrai qu'on met pas souvent Delcourt en premier. Généralement, on le garde pour la fin. Parce que...
Pour la fin.
Oui, voilà, mais aussi parce que bah, voilà, on a tendance à parler de Panini en premier, parce que c'est eux qui ont la plus grosse. J'étais en train de chercher le mot, je me dis faut pas que je m'arrête, mais non, c'est pas grave. Qui ont
En plus, c'était même pas le plus gros catalogue, donc la plus grosse.
le plus gros nombre de parutions, voilà.
Non, mais attends, le genre.
non, mais bon, c'est super mal parti. Et donc chez Delcourt, ce mois-ci, on a plusieurs sorties, hein. On a du Hellboy, des choses comme ça. Là, on va vous parler surtout du troisième tome de Irrécupérable, Irredeemable en anglais. Ce sont les épisodes 13 à 18 de la série, qui est publié chez Boom, enfin, je le rappelle.
Rappelons-le.
C'est Mark Waid au scénario. Alors, on a un changement de dessinateur sur les trois premiers épisodes, c'est Diego Barreto, et Peter
Oui, bah,
Krause
j'allais.
revient pour les épisodes 16 à 18.
Ouais, excuse-moi, en plus je t'ai coupé du coup,
Oui, c'est pas grave.
mais j'allais dire c'est honnête, hein. Franchement, niveau graphisme, moi j'ai bien
Ouais,
aimé.
moi je préfère de Peter Krause à Diego Barreto, personnellement.
Oui. Non, mais certes, mais ça va quoi, c'est pas non plus déshonorant, je trouve.
Alors, je dois dire que je me suis retapé toute la série avant, parce que ça faisait un an que dernier épisode était sorti, enfin le dernier tome était sorti, comme Chou. Je sais pas ce que fait Delcourt, en fait. Je ne comprends pas leur stratégie.
Mais
C'est-à-dire
même
qu'ils
plus d'un
sortent le...
an, je crois, non?
Non, ça fait un an, j'ai regardé, on l'a
D'accord.
traité dans le Comic City numéro 50, qui est sorti début mars, c'était le mois de février, en fait. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est cette stratégie où on sort un premier tome, on sort un deuxième 6 mois plus tard, et ensuite on fait attendre un an avant de sortir le troisième. La même stratégie que pour Chou. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est un moyen de tuer la série? Parce que, franchement, mais c'est Irredeemable, c'est comme une série qui est assez compliquée. Il y a pas mal de personnages, il y a pas mal d'infos dont il faut se souvenir si on veut apprécier la série au mieux possible. Donc au bout d'un an, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se rappellent de l'ensemble de la série. Ou alors des gens qui lisent très peu, mais enfin, pour des gens comme nous qui lisons énormément de comics, c'est très difficile d'arriver à se souvenir de tout. Donc j'ai tout relu, bon ça a été avec plaisir, mais honnêtement j'ai perdu du temps.
Ouais.
J'apprécie pas trop de perdre du temps, j'ai pas que ça à foutre.
Oui, mais enfin, pour cela dit, il y en a qui apprécient aussi de relire leur bande dessinée.
Ah mais non, mais j'ai apprécié, mais c'est-à-dire que j'aurais préféré ne les relire parce que j'avais envie et pas parce que j'étais obligé pour bien comprendre l'histoire.
Ouais.
Je sais pas si tu saisis la petite nuance.
Ouais.
C'est-à-dire que on a tellement à faire chaque mois. Bon, c'est vrai que nous, on est des cas particuliers puisqu'on va
Ah
pas faire
bah,
un
on est
maximum
cas
de choses.
sociaux, hein.
Je me voyais pas comme ça, mais bon, après tout, non, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans un cas particulier où on lit beaucoup et on fait des reviews, etc. Donc, c'est pas le même, on n'a pas exactement le même plaisir de lecture que si on les lisait juste pour nous comme ça. Mais là, franchement, j'aurais jamais pu reprendre à partir du numéro 13 sans avoir relu les précédents. Ça, c'était, pour moi, c'était impensable. Et ben, j'avais pas forcément le temps de le faire, quoi. Je l'ai fait quand même, mais j'aurais préféré faire autre chose.
Oui, moi je les ai pas lus, les deux premiers volumes, je ne les ai pas lus, mais par contre, j'ai beaucoup apprécié celui-là. J'ai pas été trop perdu, ça va. J'ai vite retrouvé mes marques parce que la série m'avait quand même pas mal marqué.
Alors, tu me disais aussi qu'il y avait quand même un bon résumé chez Delcourt.
Enfin, un bon résumé, il y a ce qu'il faut, quoi. Voilà, présentation des personnages assez succincte, mais bon, tout de même. Et puis, oui, un résumé des précédents volumes. Donc, bon, voilà, ça m'a permis vraiment de resituer où on en était. Je me souvenais effectivement de cette révélation sur le plutonien.
Bah, on va peut-être essayer de resituer un petit peu l'histoire. Quand
Oui.
même, bah, pour ceux même qui connaîtraient pas du tout la série. Le plutonien, c'est grosso modo un archétype de Superman
Qui pète les plombs.
qui pète les plombs. Voilà, la série commence et le mec a déjà détruit une ville et il traque ses anciens collègues de l'équivalent de la Justice qui s'appelle dans ce monde-là le Paradigme. On débarque là-dedans, un petit peu en plein milieu et la série avance en fait. Ce qui est énorme dans cette série, c'est qu'on arrive à voir dans chaque épisode de l'action et en même temps des flashbacks qui nous font comprendre les choses, qui nous mettent les pieds en place et on recule, on réavance. Enfin, c'est vraiment un voyage dans le temps, entre guillemets, hein.
Ben, là, c'est marrant parce que ça me fait penser à Lost d'un seul coup, et j'avais pas fait le rapprochement jusque-là, mais il y a vraiment ce côté-là, ouais.
Bah, il n'y a pas de flash forward par contre. Enfin, en tout cas, pour le moment, moi, j'en ai pas vu.
Pour le moment, oui. Oui,
Bon,
pour le moment.
c'est pas dit que dans les prochains épisodes, il n'y en ait pas, mais bon, là, en tout cas, même dans ce tome 3, il n'y en a pas. Le truc le plus important, c'est que voilà. Chaque épisode est bien dosé, on a une bonne part d'action, on a une bonne part d'explication, mais on s'ennuie pas en fait à la lecture de cette série, c'est-à-dire que ça bouge tout le temps. Ça bouge et ça avance, c'est-à-dire qu'on n'a pas un épisode où c'est juste de la baston et où il se passe rien finalement.
Ah ben, en 18 épisodes, il y en a eu des tournants, des retournements de situation
Ah
importants,
ouais, voilà.
et puis là, d'ailleurs, le volume s'arrête sur un truc assez surprenant. Mais bon.
Alors, on va essayer de replacer la situation à la fin du tome 2. Les militaires ont fait appel à une espèce d'entité alien démoniaque
Ouais.
pour essayer d'arrêter le plutonien.
Alors là, par contre, je trouvais que c'était l'idée à la con, tu vois, mais bon.
Ouais, mais finalement, elle est bien exploitée après. Enfin, dans cet épisode-là, je la trouve plutôt bien exploitée.
Ouais, c'était assez intéressant.
Au départ, moi aussi, je m'étais dit la même chose. Je me suis dit, ouais, bon, rajouter un truc par-dessus, est-ce que c'est bien nécessaire? Et finalement, on voit bien que Mark Waid sait exactement où il va. Et ça lui permet de faire rebondir son histoire d'une autre manière et finalement de continuer le plot général, même si on n'a pas l'impression que ça dérive. Ils essayent de combattre cet ennemi que, à l'époque, seul le plutonien avait réussi à arrêter. Donc c'est là où est tout le paradoxe. C'est qu'ils ne peuvent plus compter sur lui, mais finalement, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'armée, elle a fait appel à lui pour détruire le plutonien. Le plutonien est le seul capable de l'arrêter, mais le paradigme sait très bien que ça va leur retomber dessus, quoi qu'il
Non.
arrive à un moment ou à un autre.
Non, tu viens de dire le paradoxe. Donc c'est le paradoxe ou c'est le paradigme?
Les deux.
D'accord, très bien.
Du coup, ils sont tous arrêtés par l'armée. Betty Noir est en fuite, pleine de remords, puisqu'on a appris qu'elle connaissait le moyen de détruire le plutonien. Et enfin voilà, il y a beaucoup de choses. C'est que chaque personnage a ses propres secrets. Et, voilà, enfin c'est assez torturé finalement.
Oui, bah ils ont tous des secrets les uns envers les autres. C'est vraiment une Justice League très fracturée et très torturée, ouais, comme tu dis.
Mais là aussi, là où ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on n'est pas dans le cliché over the top façon Garth Ennis.
Non, non, du tout.
Parce qu'il pourrait très bien prendre la voie de la facilité et dévier là-dessus. Non, pas du tout, en fait. Ils ont des secrets, mais ça reste des secrets enfin, corrects, si on veut, quoi. Il y a quand même des coucheries, des choses comme ça, mais
Oui, enfin ça c'est acceptable quoi, c'est réaliste.
c'est pas des viols, c'est
Ouais.
pas des super-héros qui se droguent à ne plus en pouvoir et à faire des OD. Enfin, voilà, quoi, ça reste acceptable, quoi, si on veut.
Oui, non, mais exactement. Mais en tout cas, c'est bah, là, il y a encore son lot de, enfin, ce volume a son lot de, comment dire, de surprises.
J'ai oublié de préciser quand même, à la fin du dernier tome, le plutonien s'était fait défoncer par un Scylla qui est devenu surpuissant et qui est parti un petit peu soigner ses plaies si on veut, et surtout retrouver son ancien sidekick, Samsara, qui est
Ouais.
maintenant contrôlé par son plus grand ennemi Modéus, qui avait totalement disparu. Ça paraît très compliqué hein, quand on explique comme ça à quelqu'un qui ne connaîtrait pas la série, mais enfin voilà, c'est vraiment quelque chose à lire,
Oui,
c'est une bonne baffe en fait.
c'est prenant, c'est bien écrit, c'est très rythmé. Bon bah, enfin voilà que dire. Là, la série va prendre un tournant à la fin de ce volume.
Ah oui, c'est clair. C'est clair. Parce que là, enfin, quand on croit qu'on a touché le fond, bah finalement non. Ça peut encore être pire.
Oui, ça peut encore être pire. Et puis surtout, quand on pense que la série va s'épuiser, que Mark Waid va plus avoir grand-chose à raconter, il trouve encore autre chose à rajouter qui relance totalement l'intérêt et qui relance la série pour une dizaine d'épisodes.
Ouais, c'est clair. Ben là, on est à peu près à la moitié de la série. Puisque la série a annoncé, enfin, ça a été annoncé aux États-Unis qu'elle va pas tarder à s'arrêter. Je sais plus exactement à quel numéro. Le dernier numéro sorti aux États-Unis, c'est le 35, et je crois que ça s'arrête bientôt là. Je sais plus si c'est le 36 ou le 38.
D'accord, mais enfin de toute façon, on a encore quelques numéros en français, donc on a encore quoi aller.
Bon, 3-4 tomes, je dirais, ouais.
Ouais.
3-4 tomes. À savoir qu'on a toujours pas la série, pourtant, elle était censée sortir, mais ou alors c'est moi qui l'ai ratée, mais
Non,
incorruptible.
oui, non, elle n'est pas sortie en français,
Elle
enfin à ma connaissance.
était prévue par Delcourt et je sais pas quand est-ce que ça sort.
Ben je sais pas. Et d'ailleurs, je me demande si le troisième tome là n'est pas sorti. Avec du retard, on va dire, enfin en tout cas, ne sort que maintenant, parce que justement, la série n'a peut-être pas trouvé son public, malheureusement.
Mais c'est
Alors
dommage parce que c'est franchement une bonne lecture, quoi.
que. Ouais, alors que des trucs comme Haunt, bah forcément, hein, le bouche à oreille, Robert Kirkman, fait que ça se vend bien. Pourtant, je trouve que c'est pas mérité, quoi. Haunt, les trois premiers volumes, bof bof.
Irredeemable, en tout cas, pour reprendre la notation du Weekly, c'est un énorme bail.
Oui. Oui, ça fait
If...
partie vraiment des séries comme Tony Chou à lire absolument chez Delcourt.
Ah,
Il y en a d'autres,
ils ont un
hein.
très bon catalogue chez Delcourt, mais le problème, c'est que je trouve qu'ils
Invincible.
le soignent pas assez bien, quoi. Ah, peut-être qu'ils soignent bien l'objet, mais la parution, ils la soignent pas. La
Oui.
fréquence, je veux dire, de
Ouais.
parution. De là à nous en asperger tous les mois, non. Mais je pense que tous les 6 mois, 6 épisodes, c'est pas trop demandé. Surtout que, à ma connaissance, il n'y a pas eu de retard sur cette série aux États-Unis.
Non,
Donc
enfin,
là.
y a matière de toute façon sur toutes les séries. Le gros problème, c'est toujours Invincible avec un retard considérable. Alors là, c'est même dramatique. Je sais pas comment on va faire, mais
Et pourtant, c'est incompréhensible qu'il y ait autant de retard quand on voit ce qu'ils font sur Kirkman en ce moment. Preuve en est avec la sortie du Super Patriot ce mois-ci.
oui, dont on va parler tout de suite.
Oui, bah oui, tu m'as fait une transition, alors je saute dans la brèche.
Ouais.
Super Patriot, je ne me rappelle plus le nom,
Super Patou.
le titre français de l'album. Je vais être honnête, je ne comprends absolument pas pourquoi ça s'est sorti. C'est franchement du foutage de gueule.
Ouais, bah beaucoup de monde ne comprennent pas. Alors, je vais être honnête aussi, je l'ai pas lu.
Oui, ben moi je l'ai lu. C'est la mini-série America's Fighting Force, enfin Super Patriot America's Fighting Force.
Ouais.
C'est écrit par Robert Kirkman, et voilà pourquoi c'est sorti en France. Et Cory Walker au dessin.
Oui, mais alors il aurait mieux valu sortir un volume supplémentaire
Ben,
de d'Invincible,
bien
quoi.
sûr, bien sûr. Enfin voilà. Déjà, on va replacer les choses. C'est une mini-série qui date de 2002. Voilà. Il y a eu déjà plusieurs autres séries sur Super Patriot depuis. Ils vont pas toutes nous les faire quand même. Parce que, ben déjà, je ne comprends pas Super Patriot sortir Super Patriot en France. Qui connaît Super Patriot en France?
Ouais. On l'a juste vu, je crois, dans les premiers épisodes de Savage Dragon. Savage
Ben
Dragon qui a été un succès phénoménal en France, rappelons-le.
oui. Oui, c'est clair.
Voilà. Non, mais c'est pour ça que je
Mais
comprends pas.
oui, je comprends pas. C'est un personnage qui fait partie des pages de Savage Dragon, qui est apparu là-dedans, où on le découvre comme ça. Là, on n'a aucune connaissance du personnage. Je suis pas certain qu'on puisse vraiment apprécier la mini-série.
Et tu
De
sais, je
plus.
pense que la raison, c'est peut-être que Brit. Alors, je ne sais pas, hein, si c'est le cas, mais peut-être que Brit a bien fonctionné. Et Brit étant un spin-off d'Invincible, ils ont peut-être pensé que sortir Super Patriot, ça aurait le même succès, quoi.
Mais là, le problème, c'est qu'en plus, la mini-série est inintéressante.
Oui,
Franchement.
non, mais j'ai eu beaucoup d'échos négatifs, donc bon, voilà.
C'est old school, c'est pas du grand Kirkman comme on a l'habitude d'en lire. On est bien loin d'un mec qui travaille aussi bien ses scénarios que sur Invincible. Donc non, enfin franchement, voilà, c'est un le mec est un cliché de Captain America. De toute façon, Super Patriot, ça a toujours été un espèce de cliché de Captain America. Le mec qui devient super balèze. Alors on nous représente vite fait son origine dedans, c'est très bien. Mais si on connaît pas le personnage à travers les pages de Savage Dragon, déjà on a moins d'attachement. Et même pour quelqu'un qui connaît, bah comme moi, enfin franchement, je me suis fait chier dans cette mini quoi.
Ouais.
C'est Super Patriot qui a ses enfants, qui va essayer d'avoir un rancard un petit peu malgré lui, et qui va se battre contre, oh, surprise, des nazis.
Ah oui.
Des nazis, quoi. Avec le retour, je vais pas tout spoiler, mais voilà, en plus on réutilise un autre personnage de l'univers de Savage Dragon. Je trouve qu'on l'utilise mal. Voilà, enfin, moi je ne comprends pas, quoi. C'est un personnage qui est pas connu. C'est vraiment capitaliser sur le nom de Kirkman et on va nous sortir tout ce que Kirkman a fait, quoi. Bah non, non, ça sert à rien. Sortez-nous d'Invincible à la place. Je ne comprends pas cette stratégie, franchement.
Et je crois qu'ils vont sortir Super Dinosaur.
Oui, mais ça, là, en réalité, c'est du truc beaucoup plus récent. Je veux dire, c'est un Kirkman où on est plus habitué à son style. Après qu'on aime, enfin, que ce soit bien ou pas, c'est pas trop le principe. Mais là, nous sortir des trucs d'il y a 10 ans, surtout sur un personnage qui n'est pas connu, alors qu'il a eu une autre vie. Super Dinosaur, c'est véritablement une création de Kirkman.
Alors que aussi, il y a d'autres spin-offs à Invincible qui sont très bien. Par exemple, il y avait eu, je crois, hein, corrige-moi si je me trompe, mais il y avait eu du Superdog, non?
Ouais, enfin, il y a eu un numéro spécial, en fait.
Bon,
Il y a eu
d'accord,
un numéro
on va pas
spécial,
loin avec ça, mais
on a une
bon.
mini-série sur Atom Eve,
Ouais.
une autre mini-série sur Atom Eve et Rexplode, enfin des personnages d'Invincible, quoi.
Et
Mais
puis il y a
déjà.
cette fameuse série dont j'avais parlé, mais alors par contre elle se situe plus loin, effectivement.
Guardians of the Globe, ouais.
Ouais.
Ouais, bah ouais. Et puis bon, tout Kirkman n'est pas forcément très bon non plus, hein.
Oui,
Rappelons-nous.
mais là en ce moment ils capitalisent à mort sur Kirkman, ils font des posters avec la pub où c'est marqué quand le créateur de Walking Dead se met au super-héros, et bah ça donne Invincible, Super Patriot et compagnie. Bon, voilà, et trop de Kirkman, tue le
Mais c'est
Kirkman.
même pas une création à lui en plus quoi. Voilà, donc c'est ça que je trouve débile. Et puis bon, allez, on va jeter un peu d'huile sur le feu. On attend toujours la fin d'Image
Oui aussi, oui.
United. Dont juste le numéro 3 est sorti, il y a de ça. Pouh! 1 an et demi et voilà, on attend toujours la suite.
Ouais, bah ça fait partie de ces nombreux projets Image totalement avortés qu'on attend
Ouais.
pendant des années.
Malheureusement, oui, chez Image, on a aussi beaucoup de mini-séries. J'en dis souvent du bien en ce moment dans le Weekly, et on a aussi beaucoup de mini qui se sont arrêtés en plein milieu sans jamais continuer.
Bah c'est ce qui concerne surtout les premières séries cultes d'Image et les anciennes licences, quoi. Les anciens créateurs. Et voilà, bon, ça fait partie de l'image justement d'Image.
Mais de ce côté-là, ils ont pas très bonne presse. Donc voilà, donc le Super Patriot, franchement, totalement dispensable. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais claquez pas votre argent là-dedans, c'est pas bon, quoi.
Alors il y avait peut-être un titre à prendre qu'on n'a pas lu malheureusement, c'est Echo.
Ouais, Echo tome 5, on l'a pas lu par manque de temps, et puis on s'est dit que voilà, on a parlé de quasiment tous les épisodes, on en reparlera pour la sortie du dernier tome, puisque le prochain sera le dernier. Bientôt la fin de la série, il n'y a pas de raison que ça change et que ce soit pas bien. Les 4 premiers tomes étaient géniaux, je vois pas pourquoi celui-ci serait pourri.
Est-ce qu'on aura Rachel Rising en français? Je pense que tu souhaites qu'on l'ait.
Ah bah écoute, moi j'ai pas accroché.
Non, non, mais justement, c'est pour ça que je dis ça.
Bah ça m'en dit beaucoup de bien. Moi j'ai pas accroché. Après ça dépend quoi, ça dépend de chacun, je pense. Ok, bah on a fini sur le bloc Delcourt, on va passer au bloc Urban Comics. Et on va commencer donc Urban avec alors déjà un petit truc, c'est comme je l'ai dit en début de podcast, on n'a pas touché encore les parutions kiosques, puisque les parutions kiosques devaient sortir le 24, elles ont été repoussées au 30. On enregistre le 27, donc voilà. On s'est contenté du matos US qu'on avait lu
Oui,
déjà.
bah oui, ça c'est déjà une bonne chose. On avait lu aussi bien ce qui concerne Flashpoint que ce qui concerne
Green
les épisodes
Lantern.
de Green Lantern, puisque c'est la fameuse saga War
War,
of the Green
ouais.
Lanterns.
Voilà qui commence. Alors, une petite chose dont on n'avait pas parlé la dernière fois à propos d'Urban, c'est l'antidatage entre guillemets de leur parution, puisque en fait, ça sort le 30 mars, mais c'est tagué avril sur la couverture. C'était pareil pour le mois de février, on n'avait pas fait attention que les parutions qui étaient sorties au mois de février étaient taguées du mars.
Bon, enfin bon, cela dit, au mois de février, c'était sorti quand même le 23, donc, ou le 24, je sais plus, mais en tout cas, c'était sorti un peu plus dans le mois.
Bah ouais, mais alors apparemment maintenant ça sera vraiment la dernière semaine, le dernier vendredi du mois apparemment que ça
Oui,
sortirait.
quasiment le dernier jour, quoi.
Voilà,
un mois sur deux.
donc c'est pour ça que maintenant la parution. Donc on va essayer tant que possible de les traiter le bon mois, mais il se peut qu'on soit nous aussi obligés de décaler par la suite.
Bah, et ce,
C'est-à-dire
surtout
que
que d'un point de vue rédactionnel, on pourra pas voir le rédactionnel qu'ils ont mis en plus.
voilà, on
On
pourra
pourra pas
traiter juste
savoir
les
s'il y a
épisodes.
eu un problème, par exemple, je sais pas, si on remarque quelque chose vraiment qui nous étonne, ben on pourra pas forcément en parler d'avance, donc
Ou même encenser le contenu du rédactionnel, justement.
Ouais, en tout
Tu
cas d'ailleurs, je tiens à dire, parce que la dernière fois on avait été très pressé par le temps également, on avait parlé du premier numéro de Flashpoint, j'ai relu consciencieusement ce premier magazine Flashpoint, et le contenu rédactionnel fait par Urban était très bon, quand même, je tiens à le dire, il y avait vraiment énormément de choses sur toute l'histoire de Flash, enfin vraiment énormément énormément de choses, et bon, enfin voilà, donc d'un point de vue rédactionnel en tout cas c'est vraiment pas mal.
C'est là qu'est le problème pour nous, c'est que sans la parution, on peut pas en traiter. Donc voilà, on est un petit peu dans un choix problématique, c'est-à-dire que soit on en parle avant la sortie, donc en plus il faut qu'on fasse attention à vraiment pas spoiler, bah pour ceux qui ne veulent rien savoir, soit on en parle après que ce soit sorti, mais avec le risque que si le podcast sort un petit peu en retard, comme ça arrive de temps en temps, en fonction des disponibilités déjà pour l'enregistrement, pour le montage, etc., enfin tous les problèmes inhérents au podcast, bah qu'il soit plus disponible dans les kiosques, que si quelqu'un l'a raté et que notre review lui donne envie de l'acheter, il puisse plus le trouver. Donc bon, on ne sait pas trop encore comment on va faire pour les prochains mois. Là, en tout cas, ce mois-ci, on va en parler. Donc ça sort le 30. Avec un peu de chance, le podcast sera disponible par là. Donc vous pourrez vous courir chez votre marchand de journaux pour aller l'acheter si ça vous intéresse.
Et vous voterez comme une merde devant.
Oui, parce
Parce
qu'il y a
que
du verglas. Non, je
c'est pas bien de courir. C'est pas bien de courir dans la rue.
Ouais. C'est
Ouais.
encore mieux de courir avec des ciseaux à la main. Et on ne le dit pas assez.
C'est vrai que c'est une. C'est un. Faudrait qu'on court tous avec des ciseaux un jour.
Une course de ciseaux. Le
Voilà.
premier qui tombe, il a perdu.
Plus
Qui tombe et qui
que.
s'empale, hein, bien sûr.
Oui. Même quelque chose comme ça. Bon.
C'est n'importe quoi. Allez, on va commencer donc par le kiosque. On va commencer par le Green Lantern, tiens, le Green Lantern Showcase numéro 1. Donc ce Green Lantern, que vaut-il? Eh bien, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, le crossover War of the Green Lantern, ce qui réunit les trois séries Green Lantern, parce que oui, il y a bien trois séries Green Lantern, même si en France vous n'en avez vu qu'une, mais il y en a
Oui,
là.
enfin, on a eu quelques fois aussi Green Lantern Corps.
Oui, à pas juste pour les events. Moi, je parle de façon régulière. On en a toujours eu qu'une. Alors, il y a le Green Lantern numéro 64 et 65, le Green Lantern Corps 58 et 59, et le Green Lantern Emerald Warriors numéro 8.
Alors, est-ce que c'est tout ou est-ce que c'est la première partie?
Alors, c'est les cinq premières parties, hein. Je me suis basé sur la pagination. Donc, là encore, comme je dis, vu qu'on n'a pas eu les magazines en main, il se peut que l'on se trompe, mais je ne pense pas. Apparemment, c'est ce que j'ai vu. Parce qu'en plus, sur leur site, généralement, ils mettent le contenu du magazine, mais malheureusement pour le Green Lantern Showcase, c'est pas le cas.
D'accord.
Donc là, ça a été vraiment un wild guess, mais 128 pages, ça veut dire 5 épisodes. Le crossover est en 10 parties, donc j'en conclus qu'il y a les 5 premières et les 5 dernières dans 2 mois.
Mais cela dit, est-ce qu'ils vont sortir les deux numéros Aftermath?
Je sais pas. Je sais pas, en même temps, ils sont pas forcément
Oh,
très.
oh, oh, ouais, oh, je suis pas forcément d'accord, mais bon, de toute façon, on peut pas en parler pour le moment. Le pitch, grosso modo.
Alors, déjà, bon courage pour comprendre, étant donné qu'il vous manque des choses que vous aurez, je crois, fin d'année ou début d'année prochaine. Je ne sais plus trop la parution telle qu'elle est prévue. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on appelle le build-up en anglais, hein, c'est-à-dire cette espèce de mise en place des choses qui mène au crossover, bah, vous ne l'aurez pas. Donc, si vous avez le dernier numéro de Green Lantern que vous avez lu chez Panini, et ben, là vous allez faire un petit bond en avant et vous allez essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, je présume que le rédactionnel va expliquer un petit peu ce qui s'est passé, j'espère.
Ouais.
Mais voilà, c'est un petit peu dommage, quoi.
En même temps, oui, c'est d'autant plus rageant de lire ce qui s'est passé à travers un rédactionnel et ensuite d'avoir les épisodes qui t'auront été spoilés totalement.
Exactement.
Donc, acheter un truc en retard, moi,
Puis bon,
ça me saoule toujours, quoi.
même quand c'est chiant, enfin, c'est déjà chiant à faire quand c'est sur le mois d'après, mais quand c'est qu'un mois à attendre, on peut se retenir à la rigueur de lire le kiosque pendant un mois, lire je sais pas, le tome de librairie qui contient les épisodes manquants, le mois d'après, puis enchaîner sur son kiosque. C'est faisable. Mais là, c'est dans 6 mois, 1 an qu'on aura ça publié. Donc on va pas mettre le magazine kiosque de côté en attendant, et puis on le lira quand on aura tout. Non. Donc il reste une solution de TPBVO. Mais c'est pas mieux non plus, quoi.
Ouais. Mais moi, je suis même encore sceptique sur le fait que ce soit bien publié. Honnêtement, j'ai l'impression qu'ils nous disent oui, ce sera publié pour qu'on se calme et qu'on pense à autre chose. Et puis après, ce sera oui, mais bon, il est un peu tard. Est-ce que c'est bien utile? Tout le monde s'en fout. Ok, bon bah, on laisse tomber.
Surtout qu'on sera passé dans le reboot déjà depuis un petit moment.
Oui. Non mais voilà. Non mais moi, ça me semble totalement impossible, enfin absurde, que ce soit effectivement publié plus tard. Tout le monde s'en fout finalement. Enfin, voilà.
Mais je reste persuadé que au lieu de nous balancer un Superman super fiction le mois dernier, ils nous auraient balancé les épisodes manquants de Green Lantern. Ça aurait peut-être été mieux, quoi.
Oui, en plus, d'un point de vue qualitatif, peut-être même en plus.
Sachant qu'en plus, Green Lantern, quoique même si l'arc était pas excessivement bon, c'était pas le meilleur des arcs de Green Lantern. Green Lantern remplace plus Superman dans la Trinité, quoi.
Ouais.
Non, on sait
Oui,
très bien que
puis
la
bon,
Trinité actuelle, c'est Batman, Flash, Green Lantern, c'est
on a déjà
pas...
parlé de Superfiction, mais c'est vrai que j'ai refeuilleté un petit peu cet ouvrage. Même d'un point de vue graphique, quand même, c'est sacrément daté, hein.
Mais oui, voilà, ça date d'il y a 10 ans, quoi.
Enfin bon, on va pas
Bon,
refaire le podcast de
peut-être pas
la semaine
10 ans,
dernière,
remarque.
du mois dernier, mais enfin voilà.
Je suis en train de dire une bêtise, c'est peut-être pas 10 ans, quoi.
Quasiment, ça doit être 2002-2003, donc
Ah bah si, ouais, 10 ans,
bah oui,
10 ans.
donc si, oui, quasiment.
Donc voilà, donc l'histoire, c'est que on avait un ennemi qui pointait le bout de son nez, on avait vu ça dans les derniers épisodes publiés
Qui a
chez
fait un long nez,
Panini.
cet ennemi?
Remarque, est-ce qu'ils ont des nez? Oui, si, j'ai jamais fait attention en fait. Et cet ennemi, c'est tout simplement un très ancien ennemi de l'univers Green Lantern. Donc là, j'espère aussi qu'il y aura du rédactionnel qui va expliquer un petit peu le parcours de ce personnage. Bon, on va le nommer, hein, c'est Crona, de toute façon, on le sait dès les
C'est
premières
gros
pages.
nez.
Ça va être dur de repartir là. Ça va être très dur. Et donc, ce Crona a récupéré toutes les entités des Lanternes, c'est-à-dire l'espèce de gros animal, si on peut dire ça comme ça ressemble à un animal, on va dire, qui symbolise le pouvoir de l'émotion. Donc on avait Yon pour les Green Lanternes verts, enfin les
Ah toi
Green Lanternes.
tu dis Lyon, moi j'ai toujours dit Yon, Yon, je sais pas,
Moi je
Yon,
le prononce à la française en fait,
Yon. Ah oui
tout
tiens pas,
simplement.
d'accord.
On a Parallax pour les jaunes,
Mmh.
et puis il y en a d'autres. Hein,
Oui.
il y en a un pour chaque couleur en fait. Et donc Crona a récupéré toutes ces entités et détient le pouvoir de toutes les entités.
Voilà, il a fait
À
une
savoir
collection
ces...
comme les Pokémon.
Sauf que du coup, il est devenu super balèze. Et en plus de ça, il va mettre son plan en action, c'est-à-dire se venger des gardiens, je n'explique pas pourquoi, et va prendre le contrôle total d'Oa. Et donc de tous les Green Lanternes.
Ouais.
Tous, sauf quelques irréductibles, dans un petit village, non, je déconne.
Oui,
Mais c'est pas
oh
loin.
bah quasiment.
Bah,
Dans un petit secteur, on va dire.
en gros, il ne reste que les Green Lanternes terriens, qui ne sont pas affectés, et Gantet. Et la raison, elle est simple. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont touché à d'autres couleurs.
Oui. Ils
Voilà.
ont changé, on va dire, les couleurs.
Mais voilà, certains sont pas, ont changé pendant Blackest Night, ils ont eu une autre bague. Enfin, vous l'avez déjà lu, hein. Et donc, voilà, ils ont été un peu plus immunisés au pouvoir de contrôle mental de Cronin.
Alors, donc, au fait, le truc aussi sur cette mini, c'est que le titre Wars of Green Lantern, vous avez trouvé que c'était pas super judicieux.
Bah, on s'attendait, on nous avait promis quand même une baston entre les Green Lanternes terriens notamment. Alors, il y a des moments de friction, c'est sûr, mais on peut pas dire que ce soit vraiment le cas.
Non, ouais, c'est pas tout à fait ça. Donc bon, est-ce que Jeff Jones a changé un petit peu ses projets en cours de route? Je sais pas.
Bah, je sais pas non plus, mais en tout
Voilà.
cas, moi j'ai trouvé ça super bien. J'étais vraiment à l'époque. De toute façon, vous pouvez retrouver les weekly en cherchant un petit peu sur le site où on en parle parce qu'on avait traité
Comme un
quasiment
petit
tout le
fou,
cross.
il se baladait en slip, je crois, t'allais au boulot comme ça, et puis tu faisais de la trompette à travers les rayons, je crois.
Oui, c'est cela. du coup, je suis en train d'avoir des images monstrueuses. Et du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu sur la réserve au début, et finalement, le crossover m'a beaucoup plu. J'en garde toujours un très bon souvenir. Ça pète de partout. Il y a beaucoup de moments très fun, des bonnes répliques, etc. Pour moi, c'est le dernier travail soigné de Jeff Jones.
Ah carrément, bon d'accord. Bon, bah écoute, on laissera les lecteurs juger par la suite, de toute façon on en
Tu
reparlera hein, de la
en
suite.
gardes un bon souvenir, toi, de ce cross ou pas?
Ah oui. Oui, non mais moi globalement, Green Lantern, j'aime toujours. Voilà, ça fait partie de ces séries que j'apprécie toujours autant, puisque Green Lantern n'a quasiment pas changé par rapport à ce qu'elle était avant le
Mais
relaunch.
c'est ce qui va justement amener vers ce relaunch, en tout cas pour ce qui va se passer dans la série Green Lantern. Donc ça, franchement, c'est une bonne lecture.
Par rapport à Urban, il faut s'attendre, j'espère, à du très bon rédactionnel comme le mois dernier. Mais par contre, Le gros souci et ma grosse crainte, c'est de découvrir les traductions, puisque
Ah bah oui, ça.
voilà, les personnages ont. Alors, il n'y a pas de règles. C'est, y en a qui gardent leur nom américain. Il y
Bah,
en a qui.
attendez-vous à voir prononcer Guy Jardinier quand même.
Ah oui, ouais, j'espère pas.
Sait jamais.
Oh là là.
Genre, on est peut-être un peu méchant, mais enfin voilà, Néga Flash, je suis désolé, non.
Ouais, pourquoi? Mais pourquoi? Enfin, à quoi ça sert, honnêtement?
Et encore, Néga Flash, c'est pas le plus moche.
River Slash, je veux dire, ça le faisait très bien. Et oui, c'est. Alors, on va en parler tout à l'heure, d'ailleurs. Il y en a un très très beau. Mais bah, on va en parler même tout de suite, hein, si on
Bah oui, tout
passe
de suite,
à
puisque.
Flashpoint.
Donc, bah, Green Lantern, achetez-le. Hein. Franchement, si vous aimez l'univers de Green Lantern, là, vous avez tout ce qu'il faut dedans. C'est vraiment du très très bon.
5,60, je crois.
5,60, c'est ça. 5
Ça
épisodes
les
de
vaut
Green Lantern.
amplement. Surtout
Ouais.
que d'un point de vue, en tout cas papier, j'ai bien aimé la qualité au fait du papier, voilà, du magazine Urban. Je trouvais qu'en main, c'était plutôt pas mal.
Pour moi, c'est plus fun que Flashpoint. C'est beaucoup plus fun, je me suis beaucoup plus éclaté, j'ai beaucoup plus apprécié la lecture de ce
Ah ouais, mais
crossover
attention,
que Flashpoint. Non,
attention
je
parce que.
parle de Flashpoint l'event, je parle pas de
Oui,
ce qu'il y a dans ce magazine-là,
oui.
on va y venir tout de suite, mais
Ouais.
voilà. Pour moi, War of the Green Lanterns est meilleur que Flashpoint.
Moi j'ai ah, la série principale Flashpoint et ça je les mettrai au même niveau personnellement sur le kiffomètre
Et
du
c'est vrai
lecteur.
que je me rends compte que j'ai oublié de préciser vite fait les crédits, je vais le faire très rapidement. Donc au scénario, on a Geoff Johns bien sûr, Peter Tomasi et Tony Bedard, qui sont les trois scénaristes respectifs des différentes séries. Et au dessin, vous retrouvez du Tyler Kirkham, du Doug Monke et du Fernando Pasarin.
On fait
Donc
pire.
franchement, voilà, c'est plutôt pas mal, quoi. On passe donc maintenant au Flashpoint numéro 2, qui contient donc les épisodes 2 et 3 de Flashpoint, mais surtout la superbe et mais gigantesque mini-série Batman Knights of Vengeance par Brian Nazarello et Eduardo Risso, donc le tandem de 100 Bullets, qui est pour moi peut-être une des meilleures histoires de Batman qui est sortie depuis ces 5-10 dernières années. Alors c'est
Oui.
un Elseworld, mais c'est du putain de bon Batman quand même.
Ça se lit vite. C'est le seul regret, c'est que c'est trop fugace, trop court. Il y avait tellement de possibilités par rapport à cet univers du Batman de Flashpoint, de l'univers de Flashpoint, que bah, c'est dommage que finalement on n'ait que trois épisodes et trois épisodes très courts. Maintenant, on s'en souvient, ces
Ah
épisodes.
oui. Ah ouais, c'est magnifique. C'est-à-dire que bon, c'est plus un spoil pour personne. On sait qui est le Batman de cet univers. Je vais pas le dire quand même pour ceux qui n'auraient pas encore lu
Oui,
Flashpoint, on sait jamais.
parce que y a certains qui ont eu des problèmes pour se procurer les magazines kiosques d'Urban. Donc bon, sait-on jamais. Peut-être que certains n'ont pas encore pu lire le premier numéro de Flashpoint.
On va voir justement ce que ça peut provoquer. Comme changement, le fait que ce soit pas, bah, on va le dire, c'est pas Bruce Wayne. Donc, le fait que ce soit pas Bruce Wayne qui soit sous costume de Batman, qu'est-ce que ça change? Et qu'est-ce qui a changé d'autre dans l'univers de Batman?
Bah, le fait que ce soit Barbara Gordon, quand même, ça m'a étonné.
Qui s'est fait faire une ablation mammaire pour pas qu'on la reconnaisse sous costume?
Ouais, c'est ça. Qui s'est fait poser un plastron pour avoir des pectoraux de mâle.
Mais non, franchement, on a un Batman qui est extrêmement violent, qui n'hésite pas à torturer. C'est vraiment ce qu'on attend d'un Azzarello sur Batman.
Oui, et d'ailleurs, quel dommage qu'il ne soit pas allé sur du Batman plutôt que de s'atteler à du Wonder Woman. Mais bon.
Ben ouais, mais bon, il avait déjà fait un essai. Moi, je Broken Bad, Broken City, j'en garde pas forcément un bon souvenir, quoi.
C'était mieux que Wonder Woman. Personnellement. Même là, je m'en souviens, tu vois. Bizarrement, je m'en souviens quand même de Broken Back, Broken City. Je me souviens même de la conclusion qui m'avait étonné. Donc oui, non, voilà. Je trouve que.
Un, je préfère largement son écriture ici, quoi.
Ah oui, non mais bien sûr, non mais là c'est le jour et la nuit. Il est quand même bon quoi sur les street level characters et donc
Ben ouais, non,
voilà.
mais c'est vrai qu'on aurait eu ça, on aurait eu Azzarello après le reboot, on aurait eu un Batman un peu plus, je pense, agressif, et ça aurait peut-être pas plus mal. Quitte à devenir un gros con, autant y aller franco, quoi.
Non, puis en plus les gens auraient été super contents après avoir lu ça, de dire eh ben vous savez quoi, Azzarello il devient régulier sur Batman. Je pense que ça aurait bien fonctionné. Enfin, je peux me tromper, mais bon, il y a peu de chance.
C'est franchement, pour moi, cette mini-série, c'est la meilleure chose de tout Flashpoint.
Ah oui, incontestablement. C'est même au-dessus de la série principale Flashpoint. D'ailleurs, série qu'on retrouve aussi dans ce magazine. Alors, je crois que c'est les épisodes, je veux pas
2
dire
et
de
3.
conneries, 2 et 3. Des épisodes que j'avais bien aimés.
Alors, c'est Geoff Johns au scénario, bien sûr, Andy Kubert au dessin. Comme pour toute la mini, hein, mais je le répète, hein, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Grosso modo, on va essayer de pas trop spoiler. Flash va essayer de récupérer ses pouvoirs. Mais est-ce qu'il peut?
Écoute, Steve, je vais pas te donner
Mais
réponse.
oui, non, mais voilà, c'est ça. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer ses pouvoirs? Va-t-il pouvoir refaire l'expérience qui lui a amené ses pouvoirs? Va-t-il trouver un autre moyen? Et puis, on va surtout apprendre, même si on s'en doute déjà un petit peu, qui est derrière tout ça? Qui est derrière ce changement de réalité? Voilà, on va pas en dire plus.
Oh, puis il y a quand même quelques petites surprises.
Oui, il y a des surprises. Bon, on voit passer d'autres personnages de cet univers Flashpoint.
Et alors justement, donc on parlait de traduction tout à l'heure. Tu sais que Shazam s'appelait pardon Captain Thunder dans cette réalité,
Oui.
et ils l'ont traduit par exemple par Capitaine Tonnerre.
Non, mais non, quoi.
Capitaine Tonnerre, ça fait un petit
Non,
peu
je suis
Captain
désolé, c'est pas
Caverne.
possible, quoi. Là, Capitaine Tonnerre, quoi.
Ouais.
Capitaine Caverne aussi, quoi. Mais
Ouais, c'est ça,
allons-y.
ouais. Ouais. Non mais c'est le genre de truc, pourquoi? C'est quel besoin de faire ça? Je comprends qu'on veuille pas mettre trop de mots anglais dans des
Non, mais
parutions
attends, je
françaises,
veux
mais
dire,
bon,
à
là, quand
l'époque
même.
des années 70, où une plus petite minorité de personnes parlait anglais, aujourd'hui, enfin, je veux dire, c'est la génération Internet, quoi.
Non mais on peut
Tout
pas
le monde
faire du
parle un
comics. Non mais
minimum anglais.
c'est
Tout
surtout
le
qu'on
monde.
peut pas faire du comics si c'est pour traduire les trucs en français. Enfin, tu
Mais
vois ce que je veux
oui,
dire.
ça va, quoi. Thunder, et puis même si on comprend pas Thunder, on s'en fout, quoi. C'est le nom du personnage, on s'en fout, on n'a pas besoin de le comprendre.
Et
C'est pas une
c'est
obligation.
comme les titres, on en parlera tout à l'heure, les titres des
Mais je veux
univers.
dire, à ce moment-là, pourquoi ils ont gardé Flashpoint, quoi?
Oui.
C'est ça, c'est quand même assez incohérent. Non, moi, je ne comprends pas trop cette stratégie. Moi, c'est pour ça que, personnellement, je vais continuer avec la VO, hein. Je suis pas prêt de passer à la VF. Là,
Enfin,
je sais pas,
voilà,
pour
donc
moi, c'est un
non mais
manque
c'est
de
dommage
respect.
parce qu'il y
Enfin,
a de
bref.
très bonnes choses d'un côté et des choses très énervantes et incompréhensibles, éditorialement parlant, quoi. Bon, et est-ce qu'on a fait le tour sur Flashpoint?
Bah ouais, bah juste pour terminer, hein, ils vont quand même essayer d'améliorer les choses, d'une manière ou d'une autre.
Tant qu'à faire.
Malheureusement, à mon goût, ça n'avance pas. Bon, là, je les ai re-regardés quand même, je les ai pas relus, hein, entièrement, mais je les ai feuilletés de façon un petit peu appuyée pour me remémorer des trucs. Un peu plus tard, c'est vrai que sur le moment, j'étais un petit peu déçu. C'est surtout, je garde mon sentiment de déception parce que je connais l'entièreté de la mini-série, mais les épisodes 2 et 3 sont pas mauvais, c'est un peu lent. Vous verrez qu'au final, on s'aperçoit qu'il s'est pas passé grand-chose, quoi. C'est un petit peu le défaut de Flashpoint.
Bah c'est trop court, je trouve, je sais pas, enfin voilà, c'est...
On en parlera, ouais, voilà,
Tout
plus.
se passe, finalement, tout le récit se passe sur quelques heures.
Mais finalement, cette deuxième terre ne sert à rien, c'est surtout ça le problème, quoi. C'est-à-dire qu'ils l'ont essayé de la développer un minimum dans les mini-séries autour, et par chance, ou par malchance, ça dépend, mais on a échappé à beaucoup de titres tie-in. Beaucoup étaient mauvais, quand même.
Bah
Ou en tout
heureusement
cas.
qu'on n'est pas encore chez Panini, on aurait eu droit au Monster.
Ouais, bah encore quand il y a une sélection, mais parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu quand même 16 mini-séries différentes.
On aurait peut-être
16.
eu trois monsters, ou
16
trois
mini-séries.
plutôt trois big hooks.
Ouais, 16 mini-séries, 3 épisodes. Et je vous assure que tous n'étaient pas bons, loin de là. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Là, on a quand même eu la meilleure mini-série.
Je pense qu'on en aura aussi une autre,
Bah,
celle sur Superman, hein, si je dis pas de bêtises.
C'est possible. Moi, c'est une des seules que je n'ai pas lues. J'en ai entendu beaucoup de bien, mais je ne l'ai pas lue. Par manque de temps, en fait.
C'est pas mal.
Bon, c'est. Au final, j'en garde un souvenir assez mitigé, parce que cet univers, finalement, était développé plus dans les mini-séries. Et pour l'histoire, oui, effectivement, je viens de vérifier, hein, c'est bien les numéros de Superman, hein, la prochaine fois.
D'accord.
Le problème, c'est que, voilà, finalement, c'est plus une histoire sur Barry Allen, et on n'exploite pas réellement cette seconde réalité, alternative, en nous imposant un conflit entre Wonder Woman et Aquaman, qui passe au premier plan tout au long de la mini-série, qui finalement va disparaître totalement vers la fin.
Mais enfin moi, c'est pas ce qui m'intéressait le plus, le conflit entre Aquaman et Wonder
Ah non,
Woman.
c'est pas la chose la plus intéressante, mais le problème c'est qu'on nous l'impose comme quelque chose de monstrueux dans cet univers, et finalement, ça fait piouf, quoi. Enfin bon, on va pas trop spoiler,
Oui, bah, c'est le cas de le dire.
on va pas trop spoiler, mais enfin voilà, c'est dommage, quoi. C'est dommage de pas avoir été plus loin.
Mais moi j'ai quand même bien aimé le final et on en reparlera la prochaine fois.
Ouais, mais enfin, tu vois, en comparaison avec l'ère d'Apocalypse, chaque mini-série, entre guillemets, hein, qu'il y avait eu dans l'ère d'Apocalypse, avait sa propre histoire, et tout a été vers une conclusion où tout se rejoignait. Et là, c'est pas le cas.
Enfin, c'était encore plus colossal, l'ère d'Apocalypse.
Oui, c'était plus. Oh, quand tu regardes au nombre de parutions totales, l'ère d'Apocalypse en avait moins. Mais finalement, chaque histoire avait son petit truc, sa petite conclusion, et tout se rejoignait dans cet épisode final Oméga, et la boucle était bouclée. On n'avait pas un espèce de conflit qui restait un peu en suspens à la fin, quoi. C'est ça que je reproche, c'est que je trouve qu'il n'a pas été assez au bout des choses. Après, bon, on en reparlera le mois prochain, hein, mais. Ou dans 2 mois, du coup, je ne sais pas comment on va le traiter. Enfin bref, c'est quand même un bail, surtout pour cette mini-série de Batman qu'il ne faut absolument pas rater.
Non mais enfin les deux kiosques il faut absolument les prendre, voilà.
Ouais. Rien que là pour la mini-série, ça vaut les 5,60, honnêtement.
Tout à fait. Et on va passer à un autre truc sur lequel t'es beaucoup plus mitigé.
Ah ouais, le Batman, alors s'ils ont
La
appelé ça la
nouvelle aube.
nouvelle aube.
Alors, gros problème aussi dont on n'a pas du tout parlé la dernière fois avec Julien, à propos d'Urban. Quand on arrive dans un comic shop, et en fait dans mon comic shop, le gérant est bien sympathique puisqu'il met tout sous plastique. Donc personne ne tripote les bouquins et personne ne les lit avant qu'on les achète, c'est pas plus
Au moins,
mal.
on a des bouquins propres quand on les achète, au moins, ça c'est sûr.
Et puis en plus on a une pochette par magazine, par bouquin. Donc je te laisse imaginer en plus le prix que ça doit lui coûter finalement. Et puis nous, bah ça nous fait des pochettes. Je veux dire qu'on ne paye pas.
C'est toujours ça.
Voilà. Donc enfin tout ça, je dis du bien de. Je lui brosse un petit peu le poil. Mais ce que je veux dire par là, c'était que quand on est face à ce livre et que c'est emballé, donc on ne peut pas vraiment regarder ce qu'il y a dedans, eh ben on ne sait pas à quoi ça correspond en VO. Parce qu'il n'y a pas la référence VO sur la couverture, j'ai vérifié. La référence VO est juste dans le bouquin, faut vraiment chercher dans l'ours.
Bah c'est un peu le cas avec les Panini aussi, quand même.
Non, parce que bien souvent, Panini te dit quelle série VO et de quelle série VO il s'agit, de quel épisode à épisode. Bien souvent, ils le mettent, hein, au dos de la couve.
D'accord, bah je ne savais pas, tu vois, la preuve que je ne lis pas du tout de français.
Ah oui, non, mais je t'assure. Ça, c'est plutôt bien foutu chez Panini. Et là, pas du tout. Là, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et alors, en plus, le pire, c'est que comme il n'y a pas le titre VO, c'est pas Batman The Dark Knight, c'est même Batman La Nouvelle Aube. Bon.
Bah c'est le nom de l'arc, mais
Si tu sais pas que. Ah bah oui,
ah
moi
oui.
je savais pas par exemple. Mais si tu sais pas que David Finch et Jeff Abbok, bah voilà, c'est forcément ça. Bah, si t'es pas un minimum connaisseur, et là, enfin, même un bon connaisseur, tu sais pas du tout ce que c'est que ce truc.
Bah oui, non mais c'est clair. C'est clair. Le nom de l'arc VO, c'est The Golden Dawn.
Ouais.
L'aube dorée, en fait.
Oui,
Mais
puisque
enfin, l'aube.
la fameuse fille s'appelle. Oui, mais enfin c'est sûr que. En plus en VF on comprend pas trop quoi, mais en VO ça prend tout son sens.
Donc ouais, comme tu l'as dit, hein, c'est David Finch qui fait et scénario et dessin. Alors David Finch sur Batman au dessin, on se dit waouh, ça va claquer. David Finch au scénario, on se dit ah, là on est moins sûr déjà. Je dirais que c'est normal. Et finalement, il nous a bien prouvé qu'on avait raison d'être moins sûr. Le seul problème, c'est quand même, on va l'adresser tout de suite, hein, c'est la parution VO. Alors elle n'a aucun impact sur la parution VF, on a toute la série. D'ailleurs, je suis en train de vérifier sur leur site, il y a une grosse erreur en plus, on ne peut pas savoir ce que c'est exactement dedans, puisque ils ont mis que c'était Batman 75 qui était publié sur leur site, et non pas les Batman Dark Knight 1 à 5.
Ah oui, non pas du
Bon,
tout.
une petite erreur, ça peut arriver, mais c'est vrai que là du coup, pour comprendre ce que c'est encore plus difficile. Donc le problème, c'est que cette série de 5 épisodes, qui s'est arrêtée suite au reboot, mais enfin pour le reboot, effectivement, a mis 9 mois à sortir.
Ouais.
Donc là, il y a déjà un gros problème, on a un problème de retard. Et on sait très bien qu'un reboot de l'univers total ne peut pas se préparer en 2 mois. Donc Monsieur David Finch était forcément au courant du reboot quand il a pris cette série. Donc il avait sûrement un point de départ et un point d'arrivée pour son numéro 9. Puisque à la base c'était prévu pour sortir tous les mois, et que ben, monsieur ayant été en retard, pour des raisons personnelles, ben voilà, il a été en retard, du coup, ben, il nous a compressé ça sur 5 épisodes, et bilan, ça nous fait une merde.
Oh, alors, bon, je sais que t'as vraiment pas aimé.
Ah non, mais c'est chiant, quoi, je me suis.
Moi, j'ai franchement, hein, là en le lisant d'un bloc, c'est vrai que ça va moins bien qu'en le lisant comme ça, qu'en laissant le temps. Mais ça démarre. Moi, je trouvais que ça démarrait vraiment très bien. Et j'étais même surpris d'ailleurs par l'écriture de David Finch au début.
Alors, ça démarrait bien, ouais, sur le premier épisode. À
Je
partir
trouvais
du
que.
deuxième, ça merde.
Oui, je trouvais qu'il écrivait vraiment bien pour quelqu'un qui bah, est connu pour ses dessins. Je suis pas fan des dessinateurs qui deviennent scénaristes, généralement, je suis assez mitigé, mais là, j'étais vraiment agréablement surpris. Et ensuite, c'est vrai que, je sais pas, c'est brouillon, et puis.
Mais il y a un gros manque de cohérence, et puis il y a ce rush qu'on sent, quoi. le mec qui doit terminer et qui doit compresser son histoire au maximum pour
Ben,
que ça sorte. C'est et
l'histoire
d'ailleurs, enfin, je l'ai pas précisé, mais il y a Jeff Abbok qui est là, Jason Fabok qui est son petit protégé, on va dire, qui est quelqu'un qui l'a pris sous son aile et qui a un petit peu le même style graphique que lui. On sent pas énormément la différence, hein, d'ailleurs, hein, dans les épisodes,
Non,
ça se
non, non,
voit, mais
c'est...
c'est franchement dans le style de Finch. Et qui vient l'aider pour l'épisode 3 et 4, et encore heureux que ce monsieur Jason Fabok est venu l'aider, parce que sinon on n'aurait eu que 3 épisodes. Donc voilà, le problème c'est que donc il a compressé son histoire au maximum pour faire tenir ça en 5, et finalement, bah on a une histoire où on a encore un membre du passé de Batman. Alors ça c'est l'impression de Hush, tu vois. On a quelqu'un qu'il a connu dans son enfance, qui a disparu, machin. Bon, il va partir à sa recherche. Il est quand même, c'est son premier émoi amoureux, parce que bien sûr c'est une fille.
Oui, mais
Donc,
ça justement, j'ai trouvé ça
mais
sympa.
ça encore, malgré le rapprochement avec Hush, hormis que ce soit une fille, ça reste sympathique. Mais à partir du moment, dès le deuxième épisode, où arrive The Demon, là, pour moi, c'est Finch qui s'est fait plaisir en dessinant The Demon.
Oui, non, alors en fait, le problème, c'est ça. C'est que c'est plus, au final, d'un seul coup, une mini-série The Demon que une histoire de Batman.
Ben, pour moi, il voulait faire un truc The Demon, on lui a pas accordé parce qu'on a dit non, The Demon ça se vend pas, donc non. Et ben, il a fait un Batman où il a passé The Demon.
Oui,
Il s'est fait plaisir.
oui,
Bon, c'est
oui.
bien qu'il se fasse
Et de
plaisir,
toute
mais
façon,
l'histoire est pas bien, quoi.
toute l'histoire ensuite part complètement sur le côté paranormal avec des personnages. Donc, on voit Ragman. Et alors là, Ragman justement, parlons-en. La traduction d'Urban Comics, c'est le loqueteux. Voilà.
Oh là
Le loqueteux.
Bonjour, j'utilise des expressions qui n'ont pas été utilisées dans le langage français depuis 1774.
Alors en fait, ils se sont fait avoir. Ils ont dû engager Geneviève Coulon en fait. Parce qu'elle est plus chez Panini, donc peut-être si ça tombe, ils l'ont pris dans leur bagage chez Urban, je sais pas. Mais bah, fallait le sortir le loqueteux quand même. Donc au secours quoi. Du coup, on se retrouve avec bon le démon normal, ok d'accord.
Oui, bon, mais là en même temps, voilà.
Voilà le démon, bon, très bien. Mais alors le loqueteux, pitié. Hein. Loqueteux, non, arrête. Enfin tu vois, bon, ridicule. Ben enfin voilà. Donc l'histoire et puis c'est pareil. Que vient foutre le pingouin finalement?
Mais c'est juste une marionnette, quoi.
C'est juste un
Mais
gros
c'est...
passage où t'as Killer Croc, t'as le pingouin, Batman s'échappe, et puis alors surtout il y a cette intrigue avec la petite fille.
Exactement, j'allais y venir. Ce truc-là est complètement sous-exploité. C'est résolu en 2 pages sur la fin, et ça tombe à plat.
Non mais
Et c'est...
surtout moi je m'attendais à une suite de ça. Et bah figure-toi que cette suite, dans le relaunch, pour le moment, niette, on la voit pas.
Mais voilà, c'est le problème. C'est vraiment le problème de ce truc-là, c'est que finalement, ça ne sert à rien du tout. Et c'est même pas une bonne histoire de Batman. C'est ça qui me gêne, c'est que c'est même pas une bonne histoire.
C'est pas une histoire de Batman quoi. En fait, ça commence en étant une histoire de Batman et puis sur les trois numéros sur cinq, c'est une aventure de The Demon.
Ouais, moi je... Non, voilà quoi. Tout est trop facile, tout va trop vite parce que bah parce qu'il n'a pas été capable de tenir des délais. Donc on en vient encore une fois au problème des retards et comment des retards peuvent plomber une série parce qu'il y avait du potentiel. Au premier numéro, il y a du potentiel. C'est pas super bon, mais il y a du potentiel.
Oh, c'est...
Mais plus ça va, plus ça tombe.
Mais bon, enfin oui, après c'est vrai que ça s'écroule assez vite. Bon, c'est pas le truc le plus catastrophique non plus que j'ai lu, hein, sur Batman, mais
Non, mais enfin tu vois là une parution à la Panini dans un hors-série à 5,60, ça aurait été très bien. Parce que pour moi ça mérite pas un 15 euros en couverture dure.
Bah
Même
c'est
s'il y a
parce
des
que
beaux dessins de Finch.
mais voilà, c'est pour ça, c'est tout. Voilà, c'est vraiment histoire d'avoir un bouquin cartonné. Mais alors, en plus leur bouquin cartonné, il me semble pas super gros par rapport à ceux de Delcourt. Je sais pas si c'est une question de format ou un effet d'optique, mais j'ai l'impression qu'ils sont légèrement plus petits.
Ah, là je pourrais pas t'aider.
Faudrait que je vérifie. Mais toujours est-il que voilà, c'est vraiment histoire de mettre du Finch en cartonné, et la suite sera aussi normalement en cartonné.
Mais oui, non, mais enfin moi ça m'encourage pas à suivre la suite après reboot, quoi. Même bon, déjà c'est pas une suite, mais j'ai pas forcément envie d'aller voir Dark Knight volume 2, quoi.
Oui, bah c'est pas meilleur, hein, je pense. Et puis surtout, je me rends compte que le premier arc est en 12, à mon avis.
Non, puis bon, enfin, je veux dire, le choix d'appeler Batman The Dark Knight, même si Dark Knight a toujours été un des surnoms du Batman, c'est clairement pour capitaliser sur le film. Pour ceux qui y croiraient, il n'y a absolument rien à voir avec le film.
Ah
Oubliez.
oui, non, bah non.
C'est pas non plus le Batman que vous avez vu dans le film, enfin, vraiment, non. Pour moi, c'est un passe total, franchement. Je dis clairement, c'est vraiment, il n'y a rien, on s'ennuie, et ça n'aura aucune incidence. Donc non, enfin voilà, je veux dire, je suis pas certain qu'on entende reparler de Dawn un jour.
Oui, bah,
Ni même de cette petite gamine.
oui, bah, faut voir. Mais toujours est-il que j'aurais été plus sympa, comme tu dis, si c'était sorti dans un hors-série. Là, pour 15 €, ça pour 15 € c'est trop, quoi. Voilà. Donc effectivement, c'est pas utile. Dommage.
Ouais. On va finir notre petit tour chez Urban. Alors, on n'a plus de review à proprement parler. On va quand même signaler la sortie de. Alors, on en a parlé le mois dernier. Il y a Grant Morrison présente Batman. On reprend tous les épisodes de Morrison sur Batman. Bon, on a la même collection chez Green Lantern avec Geoff Jones présente Green Lantern. Et on reprend la série au numéro 1 en cartonné. Alors, 17,50 quand même, c'est un petit peu cher. Carlos Pacheco est au dessin. Ce sont les 6 premiers épisodes plus le Green Lantern Secret Files numéro 1. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé sur leur site, hein, donc j'espère que c'est bien juste. Bon, bah pour ceux qui n'auraient pas les premiers épisodes, et c'est vrai que ça peut peut-être être un peu dur à trouver, quoique je me demande si Panini les avait pas ressortis il y a pas longtemps, les 6 premiers épisodes.
Non, ils avaient sorti Rebirth.
Ah oui, Rebirth, et puis ils avaient ressorti Secret Origins en
Voilà.
gamme à pas cher, là.
Voilà. Et alors là, est-ce que c'est souple ou dur? Je sais plus, tu l'as dit
Non,
peut-être.
ça va être du dur, hein. À mon avis, à 17,50. Oui, album cartonné, de toute façon, c'est marqué sur leur site. Donc voilà. Pour ceux qui voudraient voir ce que Geoff Jones a fait du personnage depuis le premier numéro, et qu'ils auraient raté, qu'ils les veulent, enfin, c'est une bonne occasion de les prendre. C'est un peu cher à mon goût, mais c'est une bonne occasion de les avoir. Parce que traquer les numéros français dans lesquels sont ces sorties, donc les espèces de. Ça va être les DC Universe, je
Oui,
crois.
bien sûr, hein, les DC Universe.
Bah ça va être chaud.
Oui,
Ça va être chaud.
surtout que y en a qui commencent à être difficiles à trouver.
Ouais, et puis ça va être aussi
Mais
hors de prix.
non, enfin bizarrement pour le moment, non, pas les DC Universe. Enfin, entre-temps, ça a peut-être changé, mais à ma connaissance, dernièrement, c'était toujours les prix de base, quoi, quasiment.
On continue avec donc la sortie du tome 15 de 100 Bullets. Tu m'as dit que tu étais un petit peu en retard
Ah
hein, sur la série, donc
oui,
tu ne l'as pas lu,
j'ai
celui-ci.
bien 3-4 maintenant volumes de retard malheureusement sur cette excellente série que je vous encourage à découvrir et à redécouvrir puisque
Et ben voilà,
voilà.
Urban, alors ça c'est quand même la meilleure chose qu'a fait Urban pour moi, c'est la republication des premiers tomes pour une série comme 100 Bullets qui en est à son tome 15 quand même. Voilà, les deux premiers numéros sortent, c'est du cartonné par contre, c'est un peu cher, 17,50 aussi. Mais vous avez les deux premiers tomes pour pouvoir vous mettre à cette série si vous l'avez ratée, que vous avez envie de la découvrir,
Mais
ou même vous refaire votre collection.
Panini avait ressorti, je crois, les premiers tomes, il n'y a pas si longtemps.
Ah, ça par contre je ne sais pas.
Et oui, si, il me semble. Parce que Semic les avait sortis, mais Panini les a ressortis en souple. Et oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Et enfin, franchement, corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais je suis quasiment sûr de moi. Et là, Urban ressort donc à nouveau les premiers tomes, mais cette fois-ci en cartonné. Et donc effectivement, ils sont plus chers.
Le
Bref.
tandem Brian Azzarello, Edward Dorisso, dont on a parlé hein, sur Batman Night of Vengeance, hein, le Flashpoint. Voilà, vous pouvez les voir aussi sur une série un peu plus Creator Owned. On va pas parler de l'histoire, c'est un peu trop compliqué, et puis bon, tout le monde la connaît à peu près. Si vous la connaissez pas, lisez le résumé sur le site d'Urban.
Voilà, c'est de toute façon moi c'est ce qui m'avait vendu la série, juste le pitch de base. Bon.
Voilà, c'est une très bonne série. C'est adapté quand même pour un public qui a envie d'autre chose que des super-héros.
C'est vraiment du polar très crasseux.
Ouais, c'est du très noir, hein. C'est très très noir.
Oui.
Polar conspirationniste, on va dire.
C'est ça. Et les arcs sont, c'est vrai, assez inégaux. Bon, ça dépend des fois. Il y a des fois où c'est vraiment génial et des fois où tu te dis oui, mais bof. Mais globalement, c'est vraiment une série incontournable. Et je voulais en terminer sur le fait que donc le nouveau volume, hein, puisqu'il continue là où Panini s'est arrêté, sort lui en souple, et c'est toujours Jérémy Manès à la traduction, et ça c'est très bien. Et d'ailleurs la présentation est quasiment la même. Honnêtement, on a l'impression que c'est Panini qui te sort le nouveau volume.
On arrive donc ce sont les épisodes 76 à 83, hein, je l'avais pas précisé. La série s'arrête au numéro 100, donc il reste encore quelques tomes, mais voilà, elle est bientôt conclue. Donc, bah, si vous ne la connaissez pas, c'est le moment de s'y mettre.
Ouais.
Ça, c'est un bon achat.
Urban continue un bon nombre de titres Panini
Une grande vérité.
et dans le même format en fait, ce qui est pas plus mal.
Aussi, il y a ce mois-ci Pride of Baghdad de Brian Kevogan et avec Nico Henrichon au dessin, traduit par Les Seigneurs de Bagdad. Voici un monument du comics, si vous l'avez raté, pareil à prendre. Et enfin, Batman Dark Victory, donc traduit par Amère Victoire.
Voilà, bah pareil. Tu vois, tu arrives en magasin, tu dis Batman à meilleure victoire, mais qu'est-ce que c'est finalement?
Bon, avec la. Enfin, c'est une cover classique, c'est très iconique comme cover, on l'a tous vu. Cette image de Batman rouge là, comme ça,
Oui,
sur
mais
fond
par contre,
noir.
si tu checkes justement une checklist et que tu vois juste en sortie à 35 €, puisque c'est 35 €, c'est quand même un gros truc.
Oui, mais en même temps, ça reprend toute la mini-série, c'est-à-dire du numéro 0 au 13. Enfin, c'est même une maxi-série.
Ouais.
Hein, vous avez tout pour 35 euros.
Voilà, c'est honnête. Enfin, franchement,
392 pages exactement.
ouais. Et puis,
C'est du bon album, hein.
puis en plus, l'histoire était vraiment pas mal. Mais quand tu lis donc Batman la mère Victoire, tu te dis, c'est quoi? Enfin, honnêtement, moi, j'aurais pas pensé à Dark Victory, quoi.
Au moins, ils nous ont pas refait le coup de nous republier Long Halloween que Panini avait republié récemment.
Mais à mon
Là, ils
avis,
auraient pu,
ils le
hein.
sortiront un jour ou l'autre.
Ils auraient pu. Bon, à
Ils
savoir que
attendent peut-être.
cette série est la suite
Ouais.
de Long Halloween.
Et moi, j'avais lu celle-là en premier, malheureusement, puisque Long Halloween à l'époque n'était plus du tout disponible. Et j'avais vraiment bien aimé Dark Victory, peut-être même plus que Long Halloween, parce que simplement, je l'ai lu avant.
D'accord. Je préfère Long Halloween. Je trouve Long Halloween un peu mieux, mais les deux sont bonnes, quoi. Ce sont voilà deux très très bonnes histoires de
Et au
Batman.
fait, Dark Victory, juste pour préciser, c'est le moment de la rencontre entre Batman et Robin, quoi. C'est l'arrivée de Robin.
Oui.
Ah, pour une
Oui.
large part de l'histoire, c'est ça.
Il y a pas que ça, quoi.
Non, bien sûr, non, bien
Mais
sûr.
oui, c'est l'arrivée de Robin, oui, bien sûr, mais
Parce que
il y a pas que
dans
ça.
le premier, Robin n'est pas encore là, quoi. En fait, c'est ça, quoi. En Long Halloween.
C'était Batman en solo, ouais.
Ouais.
Donc voilà, ça c'est un très bon ouvrage, 35 euros. Certes, c'est un peu cher, mais vous avez 400 pages de BD.
Mais Jeff Love,
Vous avez,
Tim Sale, je suis même pas sûr, on l'a dit.
ouais. Ah oui, non, j'en avais pas précisé. C'est Jeff Lob au scénario, Tim Sale au dessin. Rien que déjà ça devrait vous vendre le truc, quoi.
Donc l'équipe mythique.
Non, franchement, là, rien à dire sur cette publication. Je sais pas s'il y a du rédactionnel dedans, mais même s'il n'y en a pas, de toute façon, ça vaut son achat. 35 euros, c'est vraiment pas si cher que ça. Bah, pour ce que c'est. Pour ce que c'est, en
T'allais
tout cas.
dire, oui, vraiment pas cher. Non, oui. Oui, bah oui.
Oui, ça fait quand même de l'argent à sortir, c'est sûr, mais quand on voit un Monster dont on va parler bientôt de Hulk à 28 euros, 304 pages, donc pour une centaine de pages de plus, rajouter 7 euros et avoir ça comme qualité.
Ouais.
Voilà.
Surtout que voilà, il y a un truc qui m'a vraiment fait chier. On va dire
Oui,
comme
bah
ça et
oui,
on va en parler
c'est
tout à
aussi pour
l'heure.
ça que je dis ça. Mais justement, mais c'est la fin de notre bloc urbain. On va passer maintenant au bloc Panini, le dernier bloc de ce podcast. Et on va attaquer. Commençons par le Hulk, on est dessus, allez hop, c'est pas grave. Peu importe l'ordre. Le Monster Hulk, justement.
Oui, avec des épisodes donc d'Incredible Hulks avec un S,
Oui, la
puisque.
série qui a changé d'appellation, hein, déjà depuis, même un petit peu avant en fait. Le dernier hors-série qui était sorti il y a de ça quelques mois, c'était déjà Incredible Hulks.
Oui, avec des épisodes, enfin un arc au fait, Darkson. Et donc Greg Pak est au scénario.
Ouais.
Alors au dessin,
Et
il y a une
puis,
ribambelle de personnes.
on a du Paul Pelletier, on
Tom
touche à ses
Grummet,
heures.
que j'adore.
Tom Grummett, ouais. Ouais, j'adore aussi Tom Grummett.
Bah c'est du John Byrne, quoi, un peu.
Ouais, c'est un petit côté, un petit parfum des années 90, mais dans le bon sens.
Ouais.
On a du Dale Eaglesham aussi au dessin. On a, grosso modo, trois arcs différents dans ce Monster.
Ou quatre même, parce que. Attends, t'as le retour de l'abomination. On peut les citer, hein, grosso modo, puisque bon, ça parlera un petit peu aux gens.
Bah c'est la partie Chaos War en fait. Ça commence avec le crossover Chaos War.
Ouais.
C'était les seuls épisodes qu'on n'avait pas encore eu.
Ouais.
Donc c'est les trois premiers épisodes. Ensuite on a tout un arc
En
en
Savage Land, ouais.
Sunderland, un Planet Hulk, Planet Savage pardon.
Ouais, Planet Savage. Oui, c'est vrai que
Ah non oui
on
c'est vrai
perd.
qu'il y a l'arc entre les deux avec Zeus que j'avais oublié.
Et voilà, c'est pour ça. Et donc, et ensuite on termine avec le meilleur, je trouve. Parce que c'est lui qui m'avait fait le plus marrer.
L'arc sur Betty, ouais.
Ouais, arc sur Betty. Bon, globalement, je vais pas te mentir, je m'attendais à mieux. Les épisodes sont assez inégaux.
Mais ouais, ça dépend en fait. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que pour ceux qui ne suivent plus Incredible Hulk, le vrai, hein, le vert, pas le rouge, j'ai l'impression de parler de Power Rangers quand je dis ça. Hulk
Ou Green
a
Lantern.
complètement changé de façon de penser. Il est partagé entre le fait de vouloir être seul et en même temps d'avoir une famille autour de lui, et donc il a réuni tout un tas de personnages irradiés au rayon gamma. Voilà.
Ouais.
On va faire simple, on a Hulk, on a She-Hulk, donc
Bah
femme
une gamma
She-Hulk en
family
français.
quoi, en fait on pourrait dire.
On a Rick Jones qui est devenu A-Bomb.
Un super catcheur.
Yes.
Non, enfin, on a l'impression que c'est vraiment
Voilà.
le nom d'une prise de catch quoi.
Ouais, c'est clair. Il y a son fils Scar.
Ouais.
Il y a Korg, un des personnages qui était avec lui sur la planète Sakaar.
Oui. D'ailleurs, je pensais qu'il était mort, j'avais oublié qu'il était revenu, enfin je sais plus.
Donc voilà, on a toutes ces petites. Et puis on a la Red She-Hulk. Voilà, on a toute cette espèce de famille gamma. Ça fait con de dire ça, mais bon. Eh oui, j'ai oublié Lyra aussi. La fille d'un futur alternatif.
Oui, vous avez vraiment
Histoire de
tout.
rendre les choses pas compliquées du tout.
Non, il y a vraiment de tout, mais en même temps, bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, bon.
Tout ça fait une petite famille, d'où le nom Incredible Hulks au pluriel. C'est le problème, c'est qu'au début, il y a peut-être un peu trop, et puis cette famille va quand même se briser
Ouais.
un petit peu. On va pas te révéler tout, qui va rester à la fin, qui sera déjà encore en vie et qui va rester dans la famille ou pas. Mais enfin, Ça part un peu partout, quoi. C'est vrai que, par exemple, l'arc sur Zeus est quand même franchement chiant. C'est deux épisodes, mais deux épisodes où ça se tape dessus et ça sert à rien, quoi.
Ouais. Bah oui, en même temps,
C'est
bon,
Hulk.
tout ce qui est tie-in, généralement, c'est là où les auteurs se cassent la gueule.
C'est ce qui est après Chaos War, en fait. Ce sont les épisodes 621, 622.
Ah
Ce
oui,
qu'on n'a
t'as
pas dit,
raison.
c'est le 618 à 629. Voilà. C'est ce qui va le faire un petit peu changer de façon de voir les choses, mais je trouve ça pas forcément bien amené, quoi. Deux épisodes, c'est un peu trop pour ça. Bon, attention, la totalité, il y en a 12. C'est pas non plus super chiant, quoi.
Ouais. Mais moi je crois qu'il y a un petit parfum des années justement, tu disais 80, 90, même dans le scénario, il y a certaines histoires, notamment le dernier arc, qui me fait vraiment penser à du Peter David sur Hulk, quoi. Il aurait pu écrire une histoire comme ça à l'époque.
Mais le seul défaut que j'ai avec cette histoire, c'est quand même le comportement de Rachel Hulk, hein, de Betty, que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi elle pète autant les plombs, en fait.
Bah, en même temps, c'est peut-être l'influence de son côté Rachel Hulk, quoi, tout simplement, quoi,
Ouais, et
Hulk,
puis le
quoi.
fait d'être ressuscité peut-être aussi, mais bon, je sais pas, ça me paraît tellement soudain, puis ça me paraît tellement genre j'ai envie de foutre le bordel,
Ouais,
que.
mais enfin bon, moi ça m'a pas trop gêné, tu vois, je l'ai vite assimilé, bon, allez, pourquoi pas, quoi.
Je trouve que c'est un peu prétexte, en fait. C'est ça le truc, c'est que ça me paraît pas assez abouti comme changement de comportement.
Oui, alors c'est sûr que d'un point de vue psychologique, c'est pas le truc le plus travaillé qui soit, mais en même temps,
La psychologie de Bruce Banner est quand même pas si mal écrite que
ouais,
ça.
enfin voilà, mais non, enfin franchement, ça me faisait vraiment penser par certains aspects à ce qu'avait fait Peter David pendant tout un temps, et puis rappelons aussi que Peter David avait fait énormément d'épisodes où t'avais Hulk qui était entouré de personnages assez farfelus et toute une équipe de mecs super balèzes. Il y avait le, comment ça s'appelait, le Panthéon. Si je dis pas de bêtises,
Oui, c'est ça.
et puis voilà, enfin, je veux dire, ça me faisait penser un petit peu à cette atmosphère, à... Bon,
Bah,
enfin.
Greg Pak a clairement capitalisé là-dessus, hein, et il a bien fait d'ailleurs. De toute façon, c'est lui qui préside à la destinée de Hulk depuis maintenant 5 ou 6 ans au moins.
Ouais, mine de rien, enfin, en passant par Incredible Hercule, rappelons-le.
Ouais, mais oui, c'est vrai. Oui. Hulk s'est un petit peu arrêté pendant un moment, mais enfin voilà quoi. Depuis même un petit peu avant Planète Hulk, je crois. Quand il était parti dans l'espace là, et d'ailleurs,
C'était non,
c'est vrai
il
que.
a commencé vraiment avec Planet Hulk, et d'ailleurs c'était ce qui l'a rendu, on va dire, scénariste superstar. Mais finalement, il est resté un petit peu piégé comme Bruce Banner dans le corps de Hulk. C'est beau ce que je dis.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que si on n'a pas lu, c'est un peu plus obscur hein, quand même Hulk en ce moment, parce que il tire énormément de choses de ce qu'il a fait déjà il y a 5-6 ans. On arrive à comprendre quand même, mais je pense qu'on en tire toute la saveur si on a vraiment tout lu, en fait. Enfin, si on a lu au moins cette partie, qu'on connaît à peu près les personnages.
La substantifique moelle.
Ouais, voilà, c'est
Voilà.
ça. Mais non, enfin, ça reste bon, c'est bien écrit. Il y a des moments où on se demande un petit peu les choix scénaristiques, ce qui se passe. Et après quelques épisodes, on comprend que finalement, il est en train de nous faire évoluer la psychologie du personnage. Elle évolue pas d'un épisode à l'autre. Bon, hormis le cas Betty, je trouve, mais ça, après ça, c'est mon avis. Mais par exemple, pour Hulk, on voit que les changements sont progressifs. On comprend pas trop sa réaction. Et puis en avançant, un épisode après, on comprend finalement le chemin parcouru, quoi. Donc, Bruce Banner, Hulk, il le tient bien. Après, bon. C'est voilà, ça part peut-être des fois un petit peu trop dans tous les sens. L'arc, par exemple, sur le Savage Land commence bien et puis finit un petit peu
En autre boudin.
ouais, un petit peu bizarrement. C'est une rupture un peu facile. Pour moi, je pense qu'il s'est débarrassé de plusieurs trucs qui l'emmerdaient, qu'il savait pas où il allait avec ça. Même s'il a quand même essayé de donner une explication, ça fait un peu je me débarrasse du truc parce que voilà, je sais plus trop quoi en faire. J'ai terminé ce que j'ai à dire avec et je vais me répéter ensuite, quoi. Par contre, toi, tu avais un énorme reproche sur la VF.
Oui, alors j'ai acheté ça dans mon comic shop, donc encore une fois le truc était emballé, mais alors ça rentrait pas dans une pochette, donc il avait carrément utilisé du plastique comme on emballe les, je sais pas, des bouquins de classe, voilà, enfin tu vois, du film plastique, et du coup je me voyais mal, tu vois, complètement le dépiauter et l'ouvrir dans le magasin. Et du coup je ne pouvais pas trop vérifier comment était fait le bouquin, et j'étais surpris parce que je me dis, putain, il est quand même épais, tiens, Panini a dû nous sortir vraiment tout le reste de la série Incredible Hulk. Et donc pour
Oui,
effectivement
parce
pour
que je rappelle quand même que la série s'arrête au 635.
voilà,
On est au 629, donc je pense qu'on aura peut-être un hors-série
on
ou tout
aura
sera
en
mis dans les
série, c'est
pages.
prévu, ouais.
Ou tout sera mis dans les pages, ouais, d'un magazine quelconque.
Ce sera hors série. Mais je sais plus lequel exactement, mais voilà. Toujours est-il que je me dis, bon bah ils ont dû mettre tout le reste dedans, et j'étais super content. Je me dis, bon bah alors pour 29 euros ça va, quoi. Pour une fois, c'est pas si mal, Panini. Et au fait, non, c'était épais le livre, parce que c'est pas le nouveau papier qui a fait augmenter le prix d'ailleurs, puisqu'avant c'était 25 euros les Monsters, avant de passer à 28, et maintenant c'est 28 et quelques, puisque...
28-40, je crois.
Ouais. Et du coup, je m'aperçois que c'est l'ancien papier, tout pourri, tu sais, tout gras, qui pue, ça sent la peinture, c'est infect. Franchement, j'ai l'impression que c'est cancérigène à 103%. Non, enfin, je veux dire, c'est...
C'est beau quand même de la part de Hulk de te filer des trucs radioactifs.
Est-ce que ça, ouais, non mais là franchement c'est assez terrible. Et non quoi, enfin je veux dire, payer quasiment, allez, 28,50 pour avoir le vieux papier tout pourri dans le Monster, au secours quoi, c'est inadmissible. Alors Panini répond que bon bah il y a eu une erreur, voilà, chez l'imprimeur, mais je suis désolé, toutes les semaines il y a une couille, et là, là ça fait chier véritablement, quoi. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. À la rigueur, ils auraient pu bah, du coup revoir le prix à la baisse exceptionnellement, puisqu'ils font une erreur. Bah, je vois pas pourquoi nous on devrait payer à la sortie, quoi. Enfin voilà, donc
C'est clair. Moi, je suis entièrement d'accord.
ça m'a énervé. Ça m'a vraiment énervé ce coup-ci.
Je suis entièrement d'accord, surtout qu'il n'y a pas un mot d'excuse, il n'y a rien. Tu le sais que si tu vas sur le Facebook.
Ouais, puis enfin même, un bien mot d'excuse, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, bon, faut faire un geste commercial à un moment donné. Ils font une erreur. Je veux dire, le coût de production de ce truc-là. Du coup, ne leur a rien coûté. Ça leur a rien coûté. Ils ont gagné de l'argent dessus. Donc je vois pas pourquoi ils ne font pas un geste et pourquoi ils disent bon bah allez hop, on va le vendre 27 quoi par exemple. Je sais pas, hein, je dis n'importe quoi. C'est déjà pas mal, tu vois. Ça fait jamais qu'1,50 € de moins quoi. Mais ce serait déjà un petit geste.
Oui, mais entre ça et puis la taxe qui est passée beaucoup plus vite, hein, qui est passée en janvier alors qu'elle commence en avril. Non, voilà, moi je ne suis pas, je suis pas du tout pour ce genre de pratique. Je trouve ça un petit peu dégueulasse, quoi.
Bah
Même
ouais
ça
non,
te
enfin
parle.
bon voilà, ça m'a vraiment saoulé. Bon, enfin cela dit, le contenu est pas si mal, juste sympathique. Voilà.
Oui, c'est clair. Bon, par contre, ça a réservé un public fan de Hulk, hein, vraiment. Mais quand je dis fan de Hulk, c'est vraiment ceux qui aiment vraiment ce personnage et pas les gens qui aiment simplement l'univers Marvel. Parce que, ok, on a des apparitions de Doctor Strange, de Kaysar, mais c'est un petit peu court, quoi. Pour les gens qui n'aiment simplement que l'univers Marvel, je pense que ça leur plaira pas.
En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Voilà.
Bah, faites un test si vous avez un comic shop à proximité, ou enfin voilà, où vous
Si
pouvez
vous avez un comic shop
commander
chez vous, dans votre jardin.
quelques back issues. Si vous n'êtes pas sûr, bah, commencez d'abord peut-être par le hors-série qui est sorti au mois de novembre ou décembre, je ne sais plus.
Qui n'était pas terrible, hein. Enfin,
Ouais,
c'était pas le meilleur arc, hein, du tout.
c'était pas le meilleur arc, mais ça donnera déjà un aperçu de ce que ça peut être, même si ce Monster est quand même meilleur, ça donnera un aperçu de ce qu'est la Hulk Family, et voir si le concept vous plaît, vous engagerez moins d'argent, vous engagerez que 5,60,
C'est la
vous engagerez pas 28 euros.
famille. Voilà.
Allez, on va passer à la suite, on va aller un petit peu sur le kiosque de ce mois-ci. Et au programme du kiosque de ce mois-ci, nous avons la sortie du Spider-Man Universe numéro 1.
Ouais. Alors, les 5 premiers épisodes de Venom, la mini-série de... Enfin, la mini-série, non, pas du tout, la série régulière de Rick Remender. Mais je ne sais plus les crédits pour les dessins, ils sont plusieurs, de toute façon.
Alors, pour les dessins, nous avons Tony Moore
Ouais.
et Tom Fowler. Tom Fowler fait le 3 et une partie du 5.
D'accord. Alors j'avais lu le premier à l'époque avec toi, je me rappelle pour un weekly. Enfin, on l'avait lu ensemble, hein. T'avais tourné les pages, je t'avais fait la lecture. Et du coup, j'avais pas lu longtemps cette série, j'avais repris au numéro 6, 7, je sais plus, enfin bon.
Bah pour Spider-Man, en fait.
Voilà, certainement, ouais. Et j'avais loupé pas mal de choses, et bah bonne surprise quand même. Il y a de
Ah
très bons trucs.
oui.
Et alors je m'attendais pas par exemple à voir un épisode sur Kraven, quoi. Voilà, je savais même pas qu'il était là, Kraven.
Alors, le concept de Venom, vous l'avez peut-être découvert dans les pages de Spider-Man il y a de ça un mois ou deux.
Ah, il y a longtemps, oui. Ouais.
Quand ils ont. Bah le point 1, je crois que c'était il y a 2 mois.
Oh, tout
Si je dis pas de
plus,
bêtises.
plus même, 3-4 maintenant, hein.
Ah ouais, bon,
Oui.
tu vois, les mois avant, c'est se confondre. C'est beau. En fait, Flash Thompson est devenu Venom. Il travaille maintenant pour le gouvernement. On a donc un symbiote au service du gouvernement pour des missions un petit peu Black
Gouvernemental.
Ops. Non, un petit peu Black Ops,
Oui.
quoi. C'est vraiment.
Bah c'est Hunt.
Ouais, voilà, c'est le même principe.
Mais enfin en tout cas moi ça me fait penser fortement à Hunt depuis le début. Et bah, je sais pas d'ailleurs si par hasard ils ont eu cette idée après avoir vu les premiers épisodes de Hunt.
Ça m'étonnerait qu'ils aient pu mettre ça en place, hein, parce que Haunt n'est pas si vieux que ça. Hein.
Ah, Hunt date quand même de... C'est sorti à l'été 2009 et Venom c'est quand même bien plus récent.
Du coup, ce Flash Thompson, Venom va devoir composer avec un symbiote qui ne peut pas porter plus de 48 heures, sinon le symbiote va prendre le pas sur lui. On lui explique que si le symbiote prend le pas sur lui, on fera comme le mec qui l'avait porté avant, on le fera exploser.
Ouais, il peut pas manger après minuit, il peut pas prendre de douche, parce que s'il est au contact de l'eau, ça fait des petits symbiotes partout.
Il peut surtout pas en parler à personne, donc même pas à Betty, qui est sa femme, hein. Ou je sais pas s'ils sont mariés, remarque.
Je sais plus, enfin ils sont en couple quoi.
Ouais, voilà, ils sont ensemble. Il est coincé un petit peu entre ce symbiote qu'ils veulent bouffer, mais qui est la seule chose qui lui permet de marcher et de reprendre ce qu'il aimait faire, c'est-à-dire une carrière militaire. Il peut pas en parler à sa chère et tendre. Il en plus se retrouve dans des situations vraiment bizarres, puisque sa première mission consiste à aller en Europe de l'Est arrêter un trouble à l'ordre public. Et il va se retrouver face au Jack-O-Lantern, personnage ressorti
De très loin.
d'outre-tombe. Ouais, celui-là, il est vieux. Bien sûr, ce qui semble être une petite mission sans importance et sur laquelle on va partir vraiment totalement sur autre chose à partir de l'épisode 2, on va se rendre compte que finalement il y a des répercussions et ça tout au long de l'arc. Et c'est bien amené, quoi. On est toujours dans ce principe de est-ce que le symbiote va pas le faire déraper? Parce qu'on sait très bien qu'il va déraper à un moment ou à un autre. Mais jusqu'à quel point?
Oui, et puis il y a du guest, et puis il y a
Oui.
aussi cet épisode 5 bien plus intimiste autour de la relation de couple entre Flash et Betty.
Bah, c'est un épisode que j'avais chroniqué, je crois, dans un Comics Weekly à l'époque,
Et
et
ben
que j'avais
très très
trouvé
bon
très très bon.
épisode, et bien loin des 4 premiers finalement. Et ça montre que Rick Remender peut écrire un petit peu de tout, et d'ailleurs il prouve très fort sur Uncanny X-Force, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure.
Voilà, donc ça c'est très bon si vous voulez redécouvrir le personnage Venom sous un nouvel angle, bien loin du Eddie Brock ou du Scorpion.
Oui, ben au secours quoi. Puis non, enfin là c'est vraiment intéressant
Je
d'avoir un
dis
proche.
bien loin du Eddie Brock, puisqu'on avait quand même dans les années 90 un Eddie Brock plutôt du côté de la justice, si on peut dire ça comme ça.
Oui, non, mais si, bah de toute façon toutes les
Mais.
mini-séries qu'il y avait eu autour, il y a eu quand même 60 numéros d'affilée, donc quasiment toute une série au fait, mis bout à bout, autour d'un Eddie Brock super-héros quoi, enfin super-héros, borderline.
Ouais, voilà, c'est ça, c'était un anti-héros, quoi. Là, Venom, c'est un peu pareil, mais on sait que c'est un personnage qui est foncièrement bon au départ. Enfin, foncièrement bon, il a quand même ses travers d'alcoolique, etc. Donc, comment va-t-il gérer tout ça?
Ah, c'est surtout que Flash Thompson, sans être alcoolique, déjà à la base, n'était pas quelqu'un de super sympa. Mais bon, voilà, il s'est racheté avec les années.
Oui, voilà,
Devenu
après, bon,
adulte.
il a aussi son problème d'avoir plus de jambes, hein.
J'aime bien comment tu dis ça. Son problème de, hein, tu sais, d'avoir plus de jambes. C'est vrai que c'est problématique. C'est vrai que c'est problématique.
Ben, ça joue sur la psychologie, et ça, Remender ne l'oublie pas non plus.
Non, non, mais c'est très bien foutu, très bien traité. Et une bonne lecture pour, je crois, encore 5,60 €.
5,60.
Voilà. Et alors là, par contre, encore une fois, on était dans l'odeur du papier.
5,50, excuse-moi,
5,50. Eh
5,50.
ben, c'est encore mieux, Madame Michu. Mais on était dans l'odeur du papier tout à l'heure avec le Monster. Et là, c'est juste épouvantable, celui-là. J'ai jamais vu ça. Ça sent tellement fort que, honnêtement, 20 minutes après avoir remis le truc dans sa pochette, toute la pièce était embaumée.
Non, mais en fait, c'est le mec de ton comic shop qui a les doigts qui puent et qui tripote les
Non,
bouquins avant de
non,
les mettre sous.
non,
Et en fait, non, mais il doit péter dans les bouquins, le mec, il les met dans des pochettes pour que ça reste dedans, quoi.
sent la peinture, ça sent vraiment l'imprimerie, mais très très fort, sur uniquement certaines parutions, mais alors le Venom, sentez-le, mes amis.
Je te dis, il pète dans ses bouquins, il les met sous
Non,
pochette
non,
ensuite.
non, 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 non. Moi je dis que non, et c'est vraiment, je sais pas, enfin, ils produisent leurs trucs de différentes façons chez Panini,
Ou
mais
alors
alors.
il pète dans ses pochettes, je sais pas.
Non, mais voilà, le Venom pue. Un Venom sent trop fort. C'est tout. Hein?
Ah, ça va être dur là. Là, franchement, je sais pas comment je vais pouvoir repartir là-dessus.
Bon, comme tu veux, de toute façon. N'importe quel kiosque.
Bon, on va continuer dans les sagas en un numéro avec le Marvel Universe en série 12. J'ai toujours l'image d'un mec qui pète dans des pochettes, en fait. Excuse-moi, depuis tout à l'heure.
Surtout si tu voyais la tête de... Enfin bon, bref.
Donc voilà, c'est la. Je dis n'importe quoi. Marvel Universe en série 12. Donc là aussi 5,50, hein, même prix. C'est une mini-série sur le Silver Surfer. Donc en 5 complètes. C'est encore scénarisé par Greg Pak.
Oui.
Et au dessin, on a du Stephen Segovia et du Harvey Toliba.
Alors, dis-moi si je me trompe, je pense que c'était prévu pour être une série régulière au début, et puis très vite c'est devenu une mini.
Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je crois que c'était comme une mini, mais je sais plus.
Bon, bah, si vous le savez, faites-nous part, hein, de votre savoir. Allez,
Bon,
de quoi
allez,
ça parle du coup ce Silver
le
Spectre?
résumé, ben, le Galactus, il a mangé sa race.
Ah bah
Il
il a
est
bu sa race,
sacrément
ouais,
mal en
mais
point. Donc du coup, le Silver Surfer, super gentil, le balance dans le soleil.
ouais.
Ben, c'est pour le recharger. Parce qu'il aime son maître, comme un bon petit chien-chien. Ben, il aime pas son maître en fait.
Il est
Il
forcé,
aime
oui, enfin voilà.
pas en fait. Il aime personne, il a pas d'émotion. Il est obstiné, droit à la tâche, il va au but. Et il se pose pas de questions. Et donc, pendant que Galactus se recharge dans le Soleil, il décide de prendre des petites vacances sur Terre, aller voir un petit peu comment la Terre a évolué et comment elle a changé depuis son dernier passage. Il va tomber sur des petites affaires qui se passent en Amérique du Sud. Mais c'est surtout ce qui va le conduire à rencontrer le maître de l'évolution, je crois que c'est ça en français,
Tout à fait.
qui va le siphonner et lui enlever tous ses pouvoirs, et on va retrouver un Orinrad totalement humain. Pas vraiment parce que c'est un alien, mais voilà, enfin, humanoïde quoi.
Et
Enfin
ça
voilà.
s'était pas déjà produit avant, quand même, qu'il redevienne humain comme ça?
Oh si, c'est déjà arrivé pas mal de fois, mais
Ouais.
bon voilà, ça c'était le début de la mini, hein. Et c'est surtout le plan du maître de l'évolution qui décide, en siphonnant l'énergie du Silver Surfer, de créer un héros. Un héros.
Siphonné.
Comment dire? Je vais pas trouver un synonyme de héros, comme le héros de Galactus, tu vois. C'est pas le héros avec le S, quoi.
Un
C'est le héros avec
conquérant,
des...
j'en sais rien. Un
Un mec,
missionnaire.
enfin... Oui, voilà. Un personnage qui va envoyer comme le Silver Surfer, en fait. Mais là où le Galactus, lui, se nourrit de planètes pour survivre, lui va redonner la vie à des planètes mortes. Il veut s'opposer... En fait, il veut devenir une force opposée à Galactus. J'ai eu du mal à le résumer celui-ci, quand même. T'as remarqué, j'ai
Oui, mais
galéré.
enfin en même temps, les Silver Surfer, c'est toujours assez métaphysique, assez philosophique. Bon, alors pas trop non plus, hein, là, c'est pas non plus les trucs les plus philosophiques qui soient, mais voilà.
On a beaucoup de réflexions sur son humanité, justement, et sa perte d'humanité, et tout ce questionnement qu'il peut avoir sur est-il encore capable de ressentir des émotions? C'est un petit peu le pathos éternel de Silver Surfer, mais là, je trouve que c'est bien écrit, encore une fois, par Greg
Oui,
Pak.
puis un petit peu de Silver Surfer de temps en temps, ça fait du bien, puisque bah, finalement, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de série autour du Silver Surfer.
Ouais. Ouais, la dernière devait dater de 2005 ou 2006.
Bah, c'était, je crois, au début de Annihilation. On avait eu une mini-série Silver Surfer.
Ouais, il a vu une mini en 12, une série qui a duré 12 numéros aussi.
Ah, d'accord.
En tout cas, Greg Pak, on a vraiment le sentiment que le mec aime les personnages torturés.
Oui. Mais, enfin, en tout cas,
Mais
c'est
c'était
sympathique.
lui aussi, hein, je crois, qu'il nous avait fait Magneto. Enfin, tu sais, la série sur Magneto, Les Origines. Donc,
Attends, je veux pas dire de conneries, mais je sais plus.
je crois que c'était, je suis quasiment sûr que c'était lui. Enfin, voilà, toujours des personnages difficiles à écrire. Et là, je trouve encore une fois qu'il s'en sort bien. Il s'en sort bien au niveau de la psychologie. Après, au niveau de l'histoire, c'est un petit peu moins bien, mais je trouve que ça traîne en longueur.
Ouais, ben un petit, enfin ça démarre très fort et puis j'étais un petit peu déçu de la suite. Bon, il y a des longueurs, mais dans l'ensemble, j'ai plutôt passé un bon moment à la lecture de ce truc-là.
Ah oui, c'est une bonne, surtout, franchement, en un album comme ça, c'est vraiment cool. Mention spéciale de vous avoir fait revenir Cybermancer, quand même.
Ah oui.
Personnage oublié des années, je parlais, c'est un personnage qui s'arrêtait au début des années fin des années 90, début des années 2000.
Oui, bah même
Il
moi, ça me
disparaît.
disait rien, tu vois, donc.
Dans l'ensemble, j'ai bien aimé cette mini, même si ça traînait un petit peu en longueur. J'ai l'impression qu'on l'a quand même pas super bien vendu, mais bon, bah, si vous aimez le personnage, jetez-vous dessus. Pour les autres, moins de chance, quoi.
Ouais. Non, mais enfin, globalement, encore une bonne surprise, encore une bonne chose chez Panini, ce mois-ci.
Par contre, faut préciser quand même qu'on est bien loin des séries cosmiques, hein. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la même ambiance que les Nova, Guardians of the Galaxy et tout. Tout se passe sur Terre ou quasiment sur Terre, quoi. C'est quand même plus proche du reste de le Marvel Universe. Il y a quelques guest stars, mais
J'allais
bah,
dire,
rien
oui,
de
c'est
plus.
plus proche d'un Fantastic Four, quoi.
Ouais, maintenant c'est logique avec le Silver Surfer.
Oui, et puis avec Galactus. Et puis d'ailleurs, ils n'ont pas fait le lien entre les apparitions de Galactus récentes et puis cette mini-série, il me semble.
Galactus s'est fait complètement défoncer. Alors le truc, c'est que je me rappelle plus, j'ai pas eu le temps en plus de faire trop de recherches, si c'est suite à Chaos War ou si c'est suite à ce qu'on aura à partir du mois prochain, Thanos Impérative.
Voilà. Il s'est fait complètement défoncer par son missionnaire.
Et j'ai bien peur que ce soit la deuxième solution et que donc on soit un petit peu spoil.
D'accord. Bon bah écoute, comme on ne sait pas nous-mêmes, c'est pas vraiment du spoiler.
Ouais, mais bon, voilà. Bref, bah quand même un bon petit truc quoi, mais pour les gens fans de ce genre d'ambiance. Pas mettre dans les mains des gens qui n'aiment que du Bendis, quoi. Je pense que ça leur plaira pas.
Oui, c'est pas là, rien à voir.
C'est pas une critique quoi que ce soit. Hein. Voilà, c'est juste bah, pour essayer de classifier la chose.
Bah, si t'essayes de faire une transition, c'est tout trouvé, puisqu'on peut peut-être passer au magazine Heroes.
Donc le Marvel Heroes 14 qui commence par le Avengers numéro 16, écrit par Brian Michael Bendis avec John Romita Jr. au dessin, Klaus Janson à l'ancrage. On est encore dans un épisode Fear Itself. Et donc on a encore cette narration typique de tous les tie-in Avengers écrits par Bendis à Fear Itself. Les gens qui parlent et qui nous font un débrief.
Oui, alors c'est le fameux épisode que j'avais lu, je crois, en VO il y a pas si longtemps, puisque Opération Flash Forward oblige, où effectivement Steve Rogers s'en va avec une équipe 100% féminine, en Latvérie, je crois. Non.
Non, en Suède, pardon,
En Suède.
c'est le château de Helsingborg.
Ah d'accord, voilà. J'avais un vague souvenir. Je n'ai pas relu cet épisode parce que je n'avais
De
pas
toute
trouvé
façon,
ça.
honnêtement, il n'y a pas grand-chose à lire.
Oui,
Hein.
voilà, c'était pas super passionnant.
Il y a beaucoup de blabla quand on a les scènes de débriefing, mais alors après, ce sont que des images sans parole.
Voilà. Et puis c'était vraiment. Enfin moi, Loft Story, ça me saoule, voir ça.
Mais là, il va chercher, il veut aller traquer Sin pour se venger de la mort de
Ah oui,
Bucky.
c'est vrai. Oui, enfin voilà, c'était vraiment pas passionnant.
Non, mais c'est comme tous les tie-in Fear Itself, c'est pas passionnant. Les tie-in Avengers Fear Itself sont franchement chiants. Puis cette narration en débriefing, c'est sympa sur les deux premiers épisodes. C'est-à-dire le 1 New Avengers et un Avengers. Et puis après, quand on s'aperçoit que de mois en mois, c'est toujours la même chose, ça devient lassant, quoi. La narration en débriefing comme ça, on a tous vu ça un max de fois et c'est lourd, quoi.
Oui, non, mais ça faisait son petit effet au début, mais voilà.
Non, puis il y a toujours ce problème du spoiler, c'est-à-dire que comme tu sais que c'est un débriefing, les personnes qui te parlent, tu sais très bien qu'elle n'est pas morte. Enfin, tu peux pas avoir le moindre climax, quoi, de dire ah, il va peut-être lui arriver un truc. Ben non, tu la vois. Alors vraiment d'avoir un plan juste sur la tête et qu'il lui ait manqué un bras ou un truc comme ça, mais
C'est juste une tête qui parle. Ou ce soit un
voilà quoi.
message enregistré et que la personne elle a enregistré avant de mourir alors qu'elle te raconte ce qui s'est passé, c'est impossible ce que je raconte.
Ouais, mais c'est ça. C'est vraiment cette narration, comme tu l'as dit, hein, très très love story, très tout ce genre de truc, quoi. C'est chiant.
Et
Il y a des gens qui vont au confessionnal, quoi.
passons à Mighty Avengers. À Mighty Thor. Non, ça
Ah,
s'appelle
Journey to Mystery.
Journey to Mystery, c'est encore mieux. Loki, les aventures de Loki.
Voilà, Journey to Mystery 626 et 626.1. Alors le 626 est tie-in à Fear Itself, 626.1, comme tous les points 1, est un truc qui est censé vous permettre de prendre la série en cours et de vous rappeler un peu les événements lisibles par tout le monde, un bon jumping point. C'est un peu le cas pour ce Journey into Mystery. On va parler du Fear Itself, c'est donc Kieron Gillen au scénario et Doug Braithwaite au dessin. Bah, ce sont toujours les machinations de Loki hein, pour essayer de sauver Asgard de ce Fear Itself. Cette fois-ci, il se rend dans les limbes et va essayer de berner Surtur.
Oui,
Voilà.
ça m'a pas passionné, je dois dire.
Ah ouais, alors moi, c'est vraiment une série que j'adore.
Ah bon, d'accord, c'est...
Ah ouais, putain, mais je ne pensais pas hein, quand la série est redevenue Journey into Mystery, je me disais. Et je les ai lus et je trouve ça mais passionnant.
Bah, je sais pas, écoute, il y a des épisodes que j'ai bien aimés, et puis d'autres, franchement, où je m'ennuie un peu, quoi. Mais là, c'est surtout, le fait, le problème que j'ai, c'est surtout que ce soit tie-in à Fear Itself. Après, justement, l'épisode suivant est bien plus passionnant pour moi.
Oh bah les trois derniers épisodes, enfin celui-ci compris quoi, qui sont déjà tie-in à Fear Itself, moi je les ai trouvés bien quoi. Toutes ces machinations de Loki qui essayent de,
Ouais.
à sa façon, d'empêcher que Asgard ne tombe.
Oui, de se racheter, oui, non, mais oui.
Mais finalement, il est en train de reprendre ses vieux travers. Enfin, je trouve ça magistralement bien écrit. Et là où une série auquel je ne pensais pas m'intéresser au départ, chaque mois, c'est le premier épisode que je lis en fait
D'accord, mais
de les parutions ma Panini.
en tout cas, il se démerde beaucoup mieux, Karen Gillan, que Matt Fraction. Je pense qu'on est bien d'accord.
Ah, puis il se démerde beaucoup mieux que quand il gérait encore la série Thor.
Oui.
Voilà. Surtout en plus, on a un final. On voit la solution qu'a trouvé Loki pour aider le combat contre le serpent, ça ne peut n'apporter que des problèmes. On n'en dira pas plus. Ce 626.1, bah, c'est un petit peu Loki qui va essayer de savoir ce que les autres pensent, essayer de comprendre un petit peu pourquoi les gens ne l'aiment pas. C'est bien écrit. Là par contre, on n'a pas Doug Braithwaite hein, au dessin, j'ai oublié de le dire,
Ouais,
excusez-moi.
c'est Space d'ailleurs.
C'est Pasquale Ferry au dessin. Je préfère Doug Braithwaite hein, perso.
Oui, moi aussi, mais bon.
Ça passe, hein. Franchement.
Bah, dans le genre, quoi, c'est bien adapté.
Mais voilà, c'est vrai que c'est une série qui plaira pas à tout le monde parce que c'est une série quasiment que de dialogue, hein. Il se passe pas énormément d'action, c'est vraiment plus tout ce
Logique.
tout ce voilà, toute la magie se fait dans les dialogues, les petites répliques, les machinations, les mensonges, tout ça, quoi. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Moi, j'adore.
Bah écoute, moi je dirais c'est très irrégulier, ça dépend des épisodes. Je sais pas, c'est peut-être le côté, c'est peut-être ce personnage quoi avec lequel j'ai un petit peu de mal toujours, mais bon.
D'accord. On passe au dernier épisode du MAC, c'est le Avengers Academy numéro 13. Cette fois-ci, c'est un épisode beaucoup plus calme. C'est toujours scénarisé par Christos Engage avec Sean Chen au dessin et Scott Hanna à l'ancrage. C'est le bal de promo.
Ouais, un épisode un peu bouche-trou, quoi.
C'est ce que je me suis dit aussi au début. Il se
Puis
passe pas
t'as
grand-chose.
aussi aimé beaucoup énormément.
Ce que j'ai bien aimé, c'est que là où en apparence on a un épisode qui sert pas à grand-chose, l'évolution des personnages est énorme.
Oui. Oui, c'est toujours
C'est-à-dire
bien foutu, oui.
il se sert de cet épisode où finalement il se passe quasiment rien pour faire évoluer les personnages. Hank Pym et Tigra vont évoluer dans leur relation. Justice et Firestar vont pareil mettre les choses au point. Raptor va changer. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se font. Pareil pour Stryker, on va en comprendre un peu plus sur lui.
De toute façon, les scénarios de Christos Engage sont toujours incroyablement amples.
Ouais, mais voilà, on sort d'une espèce de grosse baston contre Korvac, et là on a un truc plus calme, mais qui finalement est plus calme qu'en apparence, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et on met beaucoup de temps d'ailleurs à lire cet épisode, hein, ça parle tout le temps. Mais voilà, c'est bien ce qu'il sait autant faire évoluer ses personnages à des moments clés de l'histoire et à des moments importants, qu'à des moments plus soft comme ça. Un bon scénariste qui, comme on le répète très souvent, n'a pas forcément les séries à sa mesure.
N'a pas forcément sa place. Non, je plaisante. N'est pas
Mais
forcément à
pour
sa
moi,
place.
il aurait dû faire partie des architectes, quoi.
Ouais, bah, pareil, y a des gens comme ça qui sont au second plan qui devraient être au premier. C'est incroyable. Matt Fraction est là, parmi les principaux architectes, alors que des gens comme, même comme Gillen, je trouve meilleur, et Christos Engage, il est clair que c'est un petit peu pour moi le, une sorte de Jeff Jones, mais qui, enfin voilà, quoi, qui a pas eu sa chance.
Ouais, je suis d'accord. Capable de manier la continuité et un nombre de personnages effroyable.
Ah oui, mais je suis sûr que si on lui donnait une série phare, un vrai titre Avengers, il ferait des merveilles.
Si on lui laisse le loisir de pouvoir faire ce qu'il a envie.
Aussi, ouais.
C'est sûr pareil, hein, on peut lui donner une série Avengers, mais si on a toujours un Bendis qui décide de tout, c'est un peu le problème.
Enfin voilà.
Donc un très bon Marvel Heroes, hein.
Oui,
Très
dans
très bon.
l'ensemble, c'est très bon.
Allez, on va passer aux autres parutions Avengers. On va faire assez rapidement. On voulait surtout parler du Ico, du Heroes. Donc le Marvel Icons 14 avec le New Avengers numéro 15. Épisode Tie In a Fear Itself encore une fois. Et un épisode qui t'a beaucoup plu.
Oui, un épisode que j'ai adoré. Peut-être le meilleur épisode que j'ai jamais lu de Brian Michael Bendis. Un épisode alors complètement con, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a Squirrel Girl qui est chargée de garder les enfants, enfin l'enfant de Luke Cage et Jessica Jones. Et elle se fait copieusement attaquer par des mecs de l'Hydra, je crois, durant l'épisode.
Ben non, c'est les nazis de Sine, hein, pendant Fear
Ah
Itself.
bah oui, enfin voilà. Bon, et donc elle revient. Couverte de sang, à moitié morte, à la maison, au manoir des Avengers. Et là-dessus, les Avengers lui disent, est-ce que tu penses que ça va aller? Elle fait, oui, vous inquiétez pas, je vais garder le mioche, vous pouvez y aller. Ils partent tous, ils la laissent comme ça, à moitié morte, avec le gosse dans les bras. Et bah, ni une ni deux, elle se fait attaquer, enfin le manoir est assiégé. Voilà.
Forcément, ils l'ont suivi, quoi, faut pas être trop crétin.
Oui. Non mais en plus, ce que j'aime bien, c'est Jessica Jones et Luke Cage qui laissent quand même leur enfant avec une personne à moitié morte. Et en
Pleine
plus, ce
de
que j'aime
sang.
bien, c'est sans lui prêter main forte, quoi, sans la secourir. T'es sûr que ça va aller? Ouais, bon, bah, t'inquiète pas. Il y a la trousse à pharmacie dans le placard. Je pense que ça va le faire. Enfin voilà. C'était mais vraiment, mais ridicule cet épisode. J'en reviens toujours pas, quoi.
Encore heureux que c'est Mike Deodato.
Ouais.
Il y a moins ça qui sauve. Non mais voilà, c'est les aventures de Squirrel Girl en solo. On sait très bien que c'est un personnage que Bendis adore, donc il le place où il peut.
Ah oui, mais alors là, on a
Non mais
l'impression.
c'est un personnage qu'il a toujours adoré,
Oui,
hein.
mais là, on a l'impression qu'il la déteste pour la mettre dans une situation aussi ridicule.
Mais non, c'est Bendis qui trouve que c'est fun.
Enfin voilà, donc un épisode vraiment à chier, tout simplement.
Ouais. Et puis encore une fois avec ce côté confessionnal, hein, je raconte ma life bien après. Qui m'insupporte dans Fear Itself. Voilà.
Et pour Squirrel Girl, taper 1, et pour Luke Cage, taper 2.
Ouais, c'est ça. On a quand même une scène où Squirrel Girl met la misère à Wolverine.
Ah,
Ça aussi,
c'est
ça
vrai,
me fait
c'est
rire.
là aussi, ouais.
Ça me fait rire.
Oui, enfin.
Bon, bref. Passons à autre chose, il y avait l'Invincible Iron Man numéro 507, toujours Tie in a Fear Itself. Tony est chez les nains en train de fabriquer des armes. Pendant ce temps-là, sur Terre, il y a toujours le problème à Paris avec Grey Gargoyle qui est devenu un worthy, un digne en français. Voilà.
Très bien.
Ouais, non, bah, ça se lit, quoi. Ça se lit, mais c'est comme d'habitude avec du Matt Fraction, ça prend son temps,
Oui, puis
quoi.
enfin, c'est vraiment le tie-in par excellence, voilà.
Ouais,
C'est pas
voilà,
très
bon, il arrive des choses pas bien à Tony, il arrive des choses pas bien à Rescue, qui est même obligé de s'allier avec Justin Hammer.
terrible.
Voilà. Mais bon, enfin, plus de regard sur l'arc à la fin, quoi. C'est toujours agréable à lire, mais c'est un peu lent, quoi. Puis il y avait enfin deux épisodes et demi de Fantastic Four, le 4, 5 et la moitié du 6, ce que je n'apprécie toujours pas.
Oui, c'est ça.
Avec Jonathan Hickman au scénario, Barry Kitson au dessin. Donc
Alors.
ça c'est plutôt cool, sauf pour le 6, hein. Le 6 est malheureusement dessiné par Greg Tokini. Et là c'est franchement pas beau. Sans parler de l'histoire qui est complètement conne. Et à partir de là, pour moi, c'est là où la série FF devient moins bien, à partir de ce numéro 6.
Bah, disons qu'il y avait ça démarrait bien, il y avait une espèce de plan mis en place par Reed Richards avec un ensemble, enfin avec plusieurs de ses anciens ennemis, enfin plusieurs de ses ennemis même actuels. Et c'était plutôt sympathique, et puis après il y a le retour d'un personnage bien connu, qui n'a rien à foutre là, et voilà.
Mais d'ailleurs, Hickman chie sur tout ce qui a été construit pendant plusieurs années par des scénaristes, et voilà. Moi, ça me gêne. Et puis, de toute façon, j'ai trouvé que la série baissait en qualité à partir de ce moment-là. Même la suite, hein.
Alors on n'est pas forcément d'accord tous les deux, mais bon, moi je dirais que s'il y a vraiment des hauts et des bas, c'est très très irrégulier. Voilà. En tout cas, c'est certainement pas la meilleure partie, celle du retour de ce personnage-là qu'on va pas nommer.
Un Marvel Icons qui vaut pour ses deux FF 4 et 5.
Ouais.
Et puis voilà, le reste, bon, c'est moyen quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Je sens pas, mais c'est moyen. Reste le Marvel Stars avec. Alors là, je ne sais pas du tout, parce que moi, je ne l'ai pas lu d'ailleurs.
Oui, alors un épisode de Secret Avengers dont je ne me rappelle quasiment plus de rien, je le lisais très tard le soir. C'était du Warren Ellis, et du coup tu sais que
Et
c'est.
c'est l'arrivée de Warren Ellis hein, sur le titre.
Ouais, ben je garderai pas un grand souvenir de cet épisode. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Les Thunderbolts, bah alors on avait le droit à un épisode avec trois petites histoires autour de trois personnages des Thunderbolts.
Qui était tiré du numéro 159, et puis après un épisode de Fear Itself,
Voilà, un
encore
épisode de Fear Itself un peu plus intéressant avec notamment Ghost qui rentrait dans la tête du Juggernaut, possédé par, enfin, Juggernaut version Warcy.
Juggernaut qui est capable de se battre contre les Thunderbolts et en même temps contre les X-Men, parce qu'il est super fort.
Et donc, bon, bah, c'était marrant, voilà, cette intervention de Ghost dans la psyché de Juggernaut, c'était pas mal foutu, mais bon, enfin bon, de toute façon, tout ce qui est tie-in à Fear Itself, dans l'ensemble, c'est très dispensable. Et on
Mais c'est
terminait.
très bien, c'est-à-dire qu'il est à New York quand même, hein, et en même temps il est à San Francisco. Ça donne des pouvoirs d'être un worthy quand même.
Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Au même moment. Et puis, c'est surtout la continuité, enfin, l'éditeur a mal fait son boulot, je sais pas, enfin, il y a
Comme
un problème.
d'habitude.
On termine
Hulk,
avec,
ouais.
je crois.
Hulk 38 par Jeff Parker
Oui, alors
et
c'était.
Elena Casagrande.
D'accord, mais comme d'habitude, Hulk, Red Hulk, c'est pas. Moi, j'accroche pas, je comprends pas. Il y a des gens qui aiment bien cette série de Jeff Parker. Moi, je trouve ça vraiment moyen, voire pas terrible. Bon, c'est vraiment de la grosse baston généralement. Là, c'est le retour de MODOK, mais alors MODOK, nouvelle version.
Ouais, mode crâne d'œuf.
MODOK crâne d'œuf, voilà, avec des pattes d'araignée. Puis alors toujours avec ces personnages assez ridicules, ces nouveaux ennemis qui sont tous plus improbables les uns
Ouais,
que les autres.
Zero One qui est là depuis déjà un petit
Ouais.
moment. Hein. Ça me passionne pas guère non plus. Hein.
Non, enfin voilà, je comprends pas comment d'ailleurs on peut être passionné par les aventures d'un mec à moustache. C'est quand même Thunderbolt Ross, quoi, le Hulk, donc le Hulk, le Red Hulk, donc faut, enfin je sais pas. C'est comme
Ah,
si on
tu n'aimes
suivait
pas
les
les
aventures de
personnages
Jonah
à
Jameson.
moustache. Tu n'aimes pas les hommes à moustache, donc.
Voilà, et il y a pas longtemps, je crois que c'était la semaine des hommes à moustache. C'était l'info du jour, je pense. On fait une autre vue?
Ben oui, il y a le Avengers 3 aussi qui
Ouais.
conclut hein, la série Avengers.
Ah oui, alors
Alors
bon,
là,
alors.
c'est pareil, j'ai pas eu. J'ai pas lu en fait, j'ai pas eu le temps.
Ouais, mais en tout cas, c'est quand même d'un tout autre niveau. Mighty Thor, on commence avec Mighty Thor. Tu as les crédits? Matt Fraction,
Matt
Olivier
Fraction
Coipel, je
au
crois.
scénario et Olivier Coipel au dessin, c'est ça, Marc Morales à l'ancrage.
Voilà. Bah alors, c'était le fameux premier arc avec Galactus qui arrive
Où
sur
j'avais
Terre.
décroché dès le premier épisode d'ailleurs.
Voilà. Donc, c'est pas si mal finalement, mais bon, voilà.
La cover est magnifique par contre, la cover US est magnifique.
Non mais globalement c'est pas si mal que ça. Bon, j'avais vraiment pas accroché au premier. Ça s'améliore avec les épisodes. Ça se laisse lire comme. C'est sympa.
J'essaierai de lui donner sa chance quand j'aurai le temps.
Voilà.
Il
Ouais.
y avait le Captain America aussi, le
Alors,
numéro 3.
oui, un épisode très très baston. Ça se lit très vite. Il se passe pas grand chose de transcendant.
Brubaker au scénario, Steve McNiven au dessin, Jason à l'ancrage.
Ouais.
C'est beau, c'est super beau.
C'est beau, mais bon, voilà. Enfin, c'est
Le Captain
efficace, c'est fluide,
America
ça se lit vite.
qui est face au super adaptoïde.
Voilà, mais c'est ça, quoi. En fait, là, t'as résumé l'épisode. C'est un petit peu
On n'en
le.
apprend pas beaucoup plus hein, sur l'histoire générale de tout ce qu'on suit, hein, cette histoire avec le gamin endormi
Voilà,
là.
c'est ça. Mais en fait, c'est un petit peu l'épisode bouche-trou de cet arc, de ce premier arc de Captain America. Et puis, on termine quand même en beauté. Alors là, c'est quand même la série phare du magazine
Ouais,
avec.
que j'ai pas eu le temps de lire malheureusement ce mois-ci.
Eh oui, The Children's Crusade. Ah, oh, j'arrive pas à le dire, c'est horrible.
Avengers The Children's Crusade numéro 3, Alan Heinberg au scénario, Jim Chung au dessin, Mark Morales à l'ancrage, accompagné de Jim Chung.
Et dans cet épisode, nous apprenons que. Bah, enfin non, je vais même pas le dire d'ailleurs, parce que c'est tellement énorme. Bah, lisez cette série, elle est
Ah, c'est
gigantesque.
génial. C'est génial. Bon, là, j'ai pas encore lu le 3, mais
C'est un
enfin, voilà,
condensé de
c'est.
tout ce qui se fait de meilleur chez Marvel, voilà. Pour résumer.
On va pas parler des petits backups hein, qui sont tirés de la mini-série I Am an Avenger, ce sont des petites histoires solo,
Alors,
etc.
bah là, je crois qu'il n'y en avait qu'un, d'ailleurs, il me semble.
Non, il y en avait trois.
Ah bon? Mais en tout cas, je me rappelle d'un, notamment, dessiné par je ne sais plus qui, mais c'était super beau, j'ai cru que c'était Alex Ross. C'était pas Alex Ross, ça ressemblait, c'était de la peinture, c'était photoréaliste, mais...
Moi, je n'ai pas les crédits là par contre, je peux pas te les donner
Qu'importe, mais
en.
enfin, je te dis, voilà, c'était avec Firestar et puis, comment il s'appelle? Justice, non?
Si voilà, je les ai trouvés. C'est Mike Mayo. Mike Mayo, tu sais, le gars qui avait fait déjà des épisodes de Spider-Man, des petits backups sur Spider-Man, etc. Oui, c'est très très beau ça.
Oui, voilà. Et donc, franchement, point de vue graphique, c'est vachement beau. Bon, d'un point de vue scénario, c'est beaucoup plus discutable, quoi. Enfin, voilà.
On retrouve aussi Mike Mayo hein, dans les pages des Fear Itself, l'autre série là, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Les petits backups avec les petites histoires aussi.
Celle où il y a plusieurs histoires dedans.
La sortie de Frontline, mais c'est pas Frontline.
Oui, voilà, c'est ça, mais je me rappelle plus le nom. Là, comme ça me revient pas. Donc, Avengers 3 qui vaut quand même le coup.
Franchement, ouais, bah oui, dans l'ensemble, même le Thor est plutôt pas mal, hein, donc voilà. C'est le magazine Avengers, à mon sens, à suivre en ce moment.
Ouais, bah, moi j'aimais bien le Heroes de ce mois-ci quand même, mais bon après c'est vrai, ça dépend des goûts. Si on n'aime pas Journey into Mystery par exemple,
Non,
ça pénalise un peu plus.
enfin voilà. Bah, les deux se valent, quoi, voilà.
On fait un petit détour du côté de chez les X-Men avec le X-Men 13, le Uncanny X-Men 542. Bon,
Du bien fait.
c'est du Fear Itself, Kieron Gillen scénario, Greg Land au dessin. Bon, ils se battent contre le Juggernaut, ils essayent plein de plans, etc. Bon, c'est pas.
Pièce finale qu'on savait parce que
Ouais, bah on savait quand on suit un petit peu la VO. Bon, voilà, c'est. Bon, on n'en dira pas plus, hein.
voilà le
On n'en
scorpion
dira pas
devient
plus. C'est.
Venom.
Oh, voilà, on n'en dira pas plus, c'est un petit peu bizarre, mais
Mélange des
bon.
genres.
Après tout, pourquoi pas. Il y a le. Je garde le meilleur pour la fin, il y a le Prélude to Schisme numéro 3, qui est une bouse infâme. Je n'ai même pas les crédits, je les ai pas sous les yeux là. Je trouve que cette série est une merde. C'est Peter Milligan, je crois, au scénario.
Mais
Non,
non,
pas
c'est Paul
Peter Milligan,
Jenkins.
c'est Paul Jenkins, oui,
Que
voilà, c'est Paul Jenkins
t'adore.
au scénario. Bah là, non, franchement, moi, je trouve ça à chier. Ça fait 3 épisodes que c'est de la merde, et bah voilà, quoi. Bon, ça va, il en reste plus qu'un.
Ouais.
Ah non, franchement, c'est chiant, quoi. Là, on revoit le passé de Cyclope. Pouh!
Et oui, non, c'est vrai que c'est assez
Après
embrouillé.
avoir vu le passé de Xavier et Cyclope, après avoir vu le passé de Magneto, maintenant, on a le passé de Cyclope, et qu'est-ce que ce sera la prochaine fois? Le passé de Wolverine, j'imagine. On s'emmerde profondément. Ils auraient mieux fait de nous publier ça à part et puis voilà, l'acheter que ceux qui étaient vraiment intéressés. Reste le New Mutants numéro 25 et 26 avec l'arrivée de Dan Abnett et
Sont-ils
Andy Lanning au scénario. Toute nouvelle direction pour le titre. C'est Leandro Fernandez au dessin. Et donc la série va radicalement changer puisque on est loin de l'ancienne équipe de jeunes X-Men qui se retrouvent des années plus tard et qui a bien vieilli, etc. Là, Cyclope leur donne un but. allait terminer un petit peu tout ce que les X-Men ont laissé en suspens ces dernières années, autrement dit avec Matt Fraction.
C'est ça.
Voilà, tout ce que Matt Fraction n'a
Recoller un
pas
peu les
su
morceaux.
terminer comme boulot. Voilà, non, mais c'est clairement dit, hein. Il y a quand même une espèce de joli coup de pied au cul envoyé là à Matt Fraction. Et donc la première histoire, bah, ça va être s'occuper du cas X-Man, que l'on n'avait pas revu depuis la fin de Dark Reign, que Norman Osborn avait essayé de mettre à son service. Et donc là finalement, voilà, une nouvelle équipe. Alors certains sont blessés, qui seront les membres de l'équipe, on vous laisse découvrir tout ça. Moi je trouve ça génial. Super bien écrit.
J'ai beaucoup aimé également et je préfère même cette version à celle de Zeb Wells qui était déjà très bonne et
Ah
totalement
ouais,
différente.
j'adorais Zeb Wells et bah là c'est différent, ouais, c'est clair, c'est vachement différent. On est dans une histoire de personnes qui donnent des pouvoirs, enfin voilà, encore une fois ce thème, ça c'est ce qui me saoule un petit peu, ce côté oh là là, il n'y a plus de mutants, mais on arrive quand même à en faire, mais ils sont pas vraiment mutants, mais ils sont mutants, mais ils sont pas mutants. Ça commence à me faire chier,
Puis il y a
quoi.
quand même ce personnage, le confiseur, qui est de retour.
Eh ouais, le Sugarman.
Ah, Sugarman, Sugarman, voilà.
Donc pareil encore une fois, hein, qui tire pas mal d'éléments du passé. C'était le but de New Mutants au départ et ça, on continue dans cette veine-là.
Est sexy, hein, ce Sugarman.
Comment?
Il est sexy, ce Sugarman.
Ah, il est sexy, ouais, il est la méga classe. Enfin moi j'adore. Donc bah, un magazine qui est pas mal quand même. Le Uncanny se laisse lire. Puis bon, il y a cette révélation finale qui est quand même importante, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Puis il y a les deux épisodes de New Mutants qui sont géniaux et
Oui.
le prélude à jeter.
Voilà.
Tu voulais parler du X-Men Universe peut-être?
Est-ce qu'on va en parler? Oui, allez, allons-y,
Moi je l'ai pas lu,
parlons-en.
hein.
Parlons-en. Deux épisodes de X-Men. Chris Yost est au scénario et par contre je me rappelle plus du dessinateur.
Paco Medina.
Voilà, Paco Medina auto-dessin. Rappelle-toi, c'est un arc que tu avais aussi suivi en VO.
Oui, first to last.
Voilà, qui était vraiment pas mal. Grosso modo, ça fait appel au passé des X-Men. On en apprend bien plus sur le passé qui les unit à Magneto, avec un mystérieux ennemi. Non, enfin franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà.
Ouais, c'est pas mal, ouais.
C'est une bonne petite histoire des X-Men et ça fait du bien après.
De lire ça dans les pages de X-Men qui, rappelons-le quand même depuis le début de cette série, est mauvais.
Alors, je sais que t'avais pas du tout aimé. Moi, pareil, j'étais un petit peu plus mitigé que toi.
Oh non, c'est mauvais. Attends, va pas me dire que l'arc précédent là, avec Spider-Man et le lézard, c'était bon quand même.
Ah, mais je me suis pas emmerdé, moi. Enfin, j'ai pas trouvé ça très si mauvais que
C'est
ça.
bourré de vannes à deux
Moi, je me rappelle, il y
francs,
avait
et vraiment des francs, tu vois, qui n'ont même plus cours, c'est pour dire tellement elles sont pourries, et de morale, mais tirée de je sais pas, il a écouté des gens au bar du coin qui essayent de faire de la morale. C'est naze, quoi, il n'y a rien là-dedans.
Écoute, je sais pas
Et
quoi
puis
te
un
dire.
Chris Bacalo qui était pas en forme.
C'est vrai
En
que oui,
plus.
avec Chris Bacalo, ça n'aidait pas. Enfin, en ce qui me concerne. Mais voilà, donc là, deux très bons épisodes sympathiques. Ensuite, un Astonishing X-Men totalement anecdotique.
Numéro 39, c'est Daniel Way au scénario et
Daniel
Luke
Way.
Braccio au dessin.
Donc bah voilà, vraiment anecdotique. Je me demande pourquoi cette série existe encore. Par contre, ce qui est beaucoup mieux, et c'est là vraiment la série du magazine à chaque fois, c'est Uncanny X-Force. Rick Remender est au scénario et au dessin, cette fois-ci,
C'est Billy Tannen
Billy Tan.
avec Rich Elson.
Bon, mais bah alors c'est vraiment un épisode qui marque un tournant dans la série, centré autour d'Archangel.
Moi je l'avais pas lu, hein. J'ai lu que l'arc d'après, la série me plaisait pas trop au départ, et l'arc d'après est génial. Faudrait peut-être que je rattrape un de ces quatre l'arc. Je vois qu'on a notre ami Farouk qui est là.
Farouk.
Oui, le gros là.
Non mais attends, tu parles de quoi? Ah, je
Bah
sais
dans X-Force.
pas si tu... Attends, faudrait la laisser celle-là, je pensais que tu parlais de quelqu'un qui s'était connecté à Skype.
Non, 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 du tout.
Je me disais, mais de qui parle-t-il?
Je me rappelle plus son prénom qui était le Shadow King.
Ah oui, bah le maître, enfin le machin, le roi d'ombre, en français.
C'est ça?
Oui, mais non, mais moi, enfin, j'y étais pas du tout, excuse-moi. Oui, bien sûr, Steve. Bien entendu. Non, mais c'est surtout que l'épisode marque un tournant pour l'un des personnages de la série et qui va, bah, ça va impacter directement tout ce qui va s'en suivre, quoi.
Bah, c'est le thème du prochain arc, hein.
En tout cas, c'est la série X-Men à suivre absolument.
Donc ouais, un bon X-Men Universe quand même, hein. Un bon arc de X-Men, c'est tellement rare qu'il faut le souligner. La série X-Men, hein, je veux dire. Et puis un bon Uncanny X-Force. En tout cas, moi je l'ai pas lu, donc je me base sur ce que tu dis. C'est tout bon.
Ben, globalement, les magazines kiosques de ce mois-ci étaient pas si mal.
Et ben on va finir le kiosque avec la sortie d'un nouveau magazine qui s'appelle Marvel Knights. C'est le premier numéro. Alors on va faire très rapide, hein, parce qu'on en a déjà pas mal parlé dans les Comics Weekly. On a les deux premiers épisodes de Daredevil, le relaunch par Mark Waid.
Et la coup de cœur.
Pour moi, grand coup de cœur. C'est donc dessiné par Marcos Martin. Voilà, un nouveau Daredevil qui sort de Shadowland et de tout le pathos. C'est quelque chose d'un peu plus enjoué,
Oui,
on
enfin
va
c'est,
dire.
il n'y a pas que Marcos Martin, Marcos Backin.
Oui,
Oui.
c'est vrai, il y a le backup. Mais il
Non,
y a
mais c'est
aussi.
Marcos Martin sur le backup, et justement le dessinateur principal, c'est l'autre, qui lui ressemble beaucoup.
Paolo Rivera. Voilà.
Voilà.
J'avais un petit trou de mémoire, pardon.
Paolo Rivera, qui est aussi très très bon.
Les deux styles vont à merveille. Donc on a les deux premiers épisodes. Très sympa. Enfin, pour moi, c'est vraiment
Je les ai
génial ce qui.
relus
Je sais.
et figure-toi, j'ai vraiment pris du plaisir à les relire finalement, tu vois. Peut-être qu'à la deuxième lecture, j'apprécie.
Peut-être que maintenant que tu sais que tu t'attends à quelque chose d'un peu plus enjoué, avec un ton vraiment radicalement différent de ce qu'on avait au départ, peut-être que ça te plaît plus. Peut-être que la première lecture, tu t'attendais peut-être un peu plus au ton gritty qu'on avait sur la série avant, quoi.
Oui, parce que ça n'a plus
Ça
rien
n'a
à
rien à
voir.
voir.
Ça s'appelle toujours Marvel Knights, mais voilà, c'est pas aussi sombre que les deux séries, les deux autres séries qui figurent dans ce magazine.
On a le Punisher numéro 1 par Greg Rucka au scénario et puis Marco Cecchetto au dessin,
Bah alors ça
avec
démarrait
Rebecca
bien.
Nixworth à l'ancrage.
Voilà.
Un bon premier épisode, ouais,
Ouais.
franchement, un bon premier
Ça
épisode.
démarrait bien. Il y avait vraiment matière à faire un truc très très bon. Avec voilà, il place des personnages et on se dit que les destins de ces personnages vont se croiser. Et puis finalement, bah voilà, on verra par la suite que. Enfin moi je trouve que c'est plutôt moyen. Mais bon. En tout cas, le premier épisode démarre.
Ah oui, ça démarre bien, ouais. On a ensuite Ghost Rider par Rob Williams au scénario, Matthew Clark au dessin et Sean Parsons à l'ancrage. Donc on a le Ghost Rider 0.1 et le Ghost Rider 1 qui est à Ina Fear Itself. Eh bien, pour résumer, tout simplement, Johnny Blaze ne va plus être le Ghost Rider. Voilà. Nouveau départ pour le Ghost Rider et donc nouveau Ghost Rider. Voilà, on va pas en dire plus. J'ai trouvé ça sympa. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi.
Écoute, j'ai trouvé ça pas si mal. Ouais, je m'attendais à pire honnêtement. Et je trouvais ça pas si mal, j'ai trouvé ça assez divertissant. Par contre, que ce soit Taïda Firicelle, ça m'a saoulé, comme d'habitude.
Ouais, bon, bah, c'est une série qui n'a pas forcément bien pris, hein, comme on en parlait tout à l'heure, elle va vite s'arrêter. Mais bon, voilà, c'est dans les pages du kiosque. Après tout, pourquoi pas.
Si elle va subir un tournant aussi.
Oui, aussi, oui, bah oui, mais parce qu'on a déjà ce nouveau Ghost Rider, mais on ne sait pas encore qui c'est.
Voilà.
Enfin, si, on le découvre, mais.
Thierry Pimpon.
Voilà, donc, un très bon mag, et celui-ci a
Ah bah
vraiment pas
là, c'est
passé à
vraiment
côté,
le
hein.
mag à ne pas rater et à prendre de toute urgence, surtout que c'est le premier numéro, donc c'est le jumping point ultime.
Ah ouais, c'est le meilleur kiosque de ce mois-ci, hein, sans aucun doute.
Ouais.
En tout cas, chez
Suis d'accord.
Panini,
Non, je
après.
suis d'accord. Je suis d'accord.
On va faire vite fait un petit tour avant de terminer par quelque chose qui t'a plu. Du côté des rééditions et des autres sorties de chez Panini. Alors, on a la réédition de Powers. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas. Ils nous rééditent les premiers Powers, les deux premiers tomes, hein, d'ailleurs. Sachant qu'ils avaient arrêté Powers parce que Powers ne se vendait pas.
Ouais.
Je ne comprends pas bien leur stratégie. Alors c'est bien de les avoir, hein. Franchement c'est très bien parce que pour les trouver aujourd'hui c'est super chaud, mais je ne comprends pas trop pourquoi ils ressortent Powers alors qu'ils avaient arrêté et que soi-disant ça se vendait pas, nous on veut le volume 2 quoi. Bref, à ne pas rater pour ceux qui les ont pas, c'est du très très bon Bendis,
Ben moi je
très
les ai
très
pas,
loin
comme
du.
tu sais, j'avais pris la série en cours, j'avais pas aimé.
Ah oui, t'avais pas aimé, c'est vrai.
Ouais, j'avais pas accroché, mais peut-être que si j'avais commencé par le début, j'aurais peut-être plus accroché.
Mais on est très très loin du Bendis sur Avengers, hein.
Ouais.
Qui malheureusement fait souvent que se répéter. Dans la collection Marvel Gold, on a quand même le premier tome de l'ère d'Apocalypse.
Ouais, et pas le dernier, à mon avis,
16,30 €.
ils vont
Ah
ressortir les
bah oui,
quatre,
il
hein.
y en a plusieurs, oui, puisque dedans il y a le X-Men Alpha 1 qui lance tout, Astonishing X-Men 1, Gambit and the Externals 1 à 3, X-Men Chronicles 1 et Excalibur 1 et 2. Donc 232 pages, 16,30 €, c'est vraiment pas cher. Un très bon moyen de lire l'ère d'Apocalypse, qui est une saga dont beaucoup de fans de X-Men parlent encore avec beaucoup d'émotion
Ouais.
aujourd'hui.
Par contre, l'ère d'Apocalypse, vu que c'est un Elseworld, pour quelqu'un qui voudrait se mettre aux X-Men ou qui voudrait commencer à lire l'univers des mutants, c'est vraiment pas par là qu'il faut commencer, vu que bon bah tout ce qui s'y passe, c'est vraiment hors continuité, quoi. C'est une autre continuité. Donc découvrir
Bien
les
sûr.
personnages comme ça va pas aider.
une autre continuité, mais qui a quand même de l'incidence, puisqu'on a certains personnages comme Sugarman, dont on parlait tout à l'heure, qui sont échappés de l'ère d'Apocalypse. C'est leur première apparition. X-Man aussi. Enfin voilà, quoi. Tous ces gens-là, ils sont reliés. Et puis, dans les prochains mois, on va avoir besoin de connaître un petit peu cette ère d'Apocalypse.
Oui,
va se passer. Voilà. Puis ça permet aussi de faire un petit point de comparaison avec Age of X qui sort en ce moment.
Aussi.
Voilà, bon, 16,30€ pour 232 pages. Très très bon, vous avez du Scott Lobdell, du Mark Waid, du Warren Ellis, du Joe Madureira, du Salvador La Roca, enfin voilà. Vous avez
ouais, c'était pour nous c'était notre âge d'or.
Ah ouais, vous avez du grand grand monde hein, là-dessus.
Les années 90, la saga, il faudrait qu'ils ressortent la saga du clone comme ça.
Avec les omnibus qui sont sortis, je sais pas s'ils sont prêts de leur sortir. Hein.
Mais en petit.
Mais ce serait bien, à ce prix-là, ouais, ce serait bien. Ouais.
Par petits morceaux. J'aurais une petite quinzaine.
On a aussi à noter la ressortie de l'intégrale du Spider-Man 1962-1963. Ils refont un coffret collector pour les 10 ans, puisque c'était la première intégrale qu'ils ont sortie.
Ouais, je m'en rappelle, je l'avais acheté. Voilà. Qu'est-ce que dire de plus ? 10 ans déjà, j'arrive même plus à parler.
On a la sortie de Thor aussi, 62-63, avec les tout premiers Journey into Mystery. Après avoir fait le run de Simonson, ils s'attaquent au tout début du personnage.
Ils n'avaient pas sorti déjà ces épisodes dans du Marvel classique en kiosque ?
Si, peut-être.
Bah alors, beaucoup de choses passent. Enfin bon, d'accord, ok.
On a aussi du New Avengers en Deluxe, les épisodes de Secret Invasion. Mm-hmm.
Volume 5, déjà.
Et les 14 premiers épisodes de The Boys en Deluxe.
Ouais, ça c'est impressionnant quand même, c'est quasiment un omnibus. Non, pas un omnibus, je déconne.
Non, quand même, ça fait 352 pages, c'est le prix d'un Monster.
Ouais.
Qui fait d'ailleurs 30,40€, quand même.
Ok.
Voilà un petit peu du côté des rééditions, les choses les plus importantes. Il y a aussi eu la sortie ce mois-ci, qui n'est pas une réédition, de Kirby Genesis. Alex Ross est au dessin, Kurt Busiek au scénario. Enfin, Alex Ross est au dessin, au design, quoi. Et c'est Jack Herbert qui finit les dessins, enfin c'est... travaille à plusieurs mains, donc il y a les épisodes 0 à 4. Honnêtement, j'ai lu les 0 et 1. J'ai arrêté.
Moi aussi, je les avais lus en 0.
Ça ne m'a pas passionné du tout.
Pareil, ça m'a profondément ennuyé. Voilà,
c'est 11,20€, c'est pas excessivement cher, mais honnêtement, j'ai eu l'impression de... Alors, c'est pas la même histoire, hein, mais j'ai un peu eu l'impression de relire Project Superpowers.
Qui était déjà, pour moi, très ennuyeux, et mais moins que ça.
Voilà, là en gros l'histoire c'est que ils vont réutiliser des concepts de Jack Kirby, des choses qu'il n'avait pas forcément le temps de mettre dans des histoires, des dessins préparatoires, etc. Ils ont monté toute une histoire avec ça, en se basant sur l'histoire que Jack Kirby avait dessinée à une époque où ils avaient envoyé une sonde dans l'espace avec le fameux dessin que tout le monde connaît qui représente l'humanité. Jack Kirby avait fait sa version et ils sont partis sur ce principe-là.
Ouais.
Honnêtement, vraiment pas passionnant. Ben, je dirais pas que c'est mal écrit, mais c'est un style assez lourd. Non, là, je déçu, quoi. Déçu. Je m'attendais à mieux que ça.
Idem.
Et on termine, tu termines avec le Deadpool Max.
Avec mon coup de cœur du mois.
C'est vrai?
Non, sans déconner. J'ai passé vraiment un moment à me fendre la poire là-dessus. Deadpool Max. Alors, je sais qu'il y a...
Épisode 1 à 6.
Épisode 1 à 6. Et d'ailleurs, je voulais te demander, est-ce qu'il y en a encore beaucoup, des épisodes?
Alors, ça s'arrête à 12. Et puis ensuite, on part sur Deadpool Max 2.
Eh ben tant mieux. Alors franchement, j'ai vraiment adoré. J'ai passé un super moment. C'est du grand David de la femme. Et je sais pas en fait. C'est un truc.
Kyle Baker est aussi au dessin aussi.
Oui, et j'ai bien aimé aussi les dessins. J'ai trouvé ça vraiment original. Bon, que te dire. C'est du Deadpool. Alors super trash.
Bah c'est dans la collection Max quoi.
C'est dans la collection de Max, mais. Voilà, là où il fait vraiment du trash gore avec Crost, là il nous fait du trash gore, mais comique. Enfin, vraiment, j'étais...
Et sexuel aussi.
Oui, mais enfin, j'ai envie de te dire, on en sort tellement, parfois même des pires dans les podcasts, que bon, je suis pas été choqué.
Moi, c'est pas ce que je cherche dans un comics, en fait. Donc,
Mais moi, ça m'a pas dérangé. Enfin, franchement...
Moi, pour la petite histoire, j'avais détesté le premier numéro, retrouver le weekly où j'en parle. J'avais détesté, donc je n'ai absolument pas eu envie d'aller lire la suite.
Il y a un truc énorme, il y a l'épisode 3 sur le Baron Zemo, ils te font un espèce de portrait au vitriol du mec, qui est là, au fait, c'est... comment dire, il revoit les personnages à travers l'univers Max, donc le Baron Zemo, c'est plus le Baron Zemo qu'on connaît, c'est un adepte, enfin c'est un chef du Ku Klux Klan. Et alors, il fait un portrait du mec qui est raciste, antisémite, enfin bref, il a tous les défauts. Et c'est super fandard tellement c'est totalement, mais totalement barré, quoi. C'est totalement absurde. Non, franchement, moi, j'étais mort de rire, quoi, en lisant ce truc-là. Et chaque épisode, il y a son lot d'absurdité. C'est totalement démentiel. Honnêtement, j'ai passé un super bon moment à lire ce truc.
D'accord, bah écoute. Alors par contre, ne pas mettre dans les mains des enfants.
Ah oui, alors ça, par contre, alors ça, grosse stupéfaction de ma part quand même. Panini, pour le moment, a juste mis un logo interdit aux moins de 16 ans sur Sculpt. C'est le seul titre sur lequel il y a ce logo. Là, c'est simplement pour lecteurs avertis. Alors, ça veut dire que quand ils achètent Spider-Man, quand ils achètent Deadpool Max, pardon, c'est la même chose.
Ouais, non, ça c'est pas normal par contre.
Il y a vraiment un très très gros souci. Interdit aux moins de 12 ans, ça aurait déjà été pas mal, mais pas assez selon moi. Interdit aux moins de 16 ans, totalement quoi. Je veux dire là on est vraiment dans le politiquement incorrect à fond les ballons.
Pourtant, moi, j'ai plutôt horreur de cette société d'aujourd'hui, du politiquement correct à tout va. Mais ça, je sais pas, j'ai pas accroché. Alors peut-être que
Alors qu'est-ce
le
qui t'a
jour où je l'ai lu,
dérangé
j'étais...
dans le premier vraiment, je m'en rappelle plus moi. Tu te rappelles d'un détail qui t'avait vraiment dérangé?
Oh bah cette omniprésence de bah par exemple le mec qui est avec lui là, l'agent infiltré,
Ouais.
qui passe son temps à être un petit esclave sexuel, ça m'a saoulé quoi.
Non, mais moi ça m'a pas tellement dérangé. Bon, enfin voilà. Puis des scènes un peu trash comme ça, on en avait eu dans des Preacher, dans des The Boys, dans des trucs comme ça quand même.
Ouais mais là, enfin moi l'impression que ça m'a donné, c'est que c'était faire trash pour faire trash. Alors oui, c'est le but. Mais qu'il n'y avait rien derrière.
Moi, j'ai pas trouvé ça plus choquant et plus trash qu'un Preacher, honnêtement. D'ailleurs, Preacher, quelquefois, a fait largement pire. Et puis, non, bah, il y a quelques petites trouvailles, comme la clé à mouler dans le caca. Je crois que t'as dû adorer cette scène.
Enfin donc voilà, moi j'ai vraiment trouvé que c'était du trash pour faire trash sans rien derrière, c'est qu'il y avait pas, il y avait pas d'histoire intéressante derrière, il y avait pas
Ah, moi, je me suis bien poilé, hein. Dès le premier truc, quoi, je veux dire...
Peut-être qu'un jour je redonnerai sa chance, mais pour le moment non, j'en garde trop un mauvais souvenir pour essayer d'y pour essayer de recommencer en fait.
Il y avait des répliques cultes, alors j'en ai plus en tête là, c'est con, j'aurais dû les noter, mais voilà, il y avait vraiment des répliques qui m'ont fait bien marrer. À la traduction, faut préciser qu'ils ont pris quand même Jérémy Manès, heureusement, parce qu'à mon avis, il y avait eu, enfin, il y avait des petites adaptations à faire, il les a brillamment faites, comme d'habitude. Donc voilà, enfin, en tout cas, moi j'ai passé un bon moment là-dessus.
Ok, bah écoute, voilà, bah il y en a pour tous les goûts, quoi.
Il y en a qui aiment bien le
Après
caca.
tout. Non, non, mais. Non, voilà, enfin, c'est bien, il y en a pour tous les goûts. Après, on n'est pas obligé de tout aimer, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Oh non, c'est minable. Avant de terminer notre émission, nous avons reçu un mail de Samuel qui nous posait une petite question. Il nous dit: Bonjour, j'aimerais commencer à lire un comic dans le style Batman ou Avengers, mais je viens de me rendre compte de la multitude de titres sur ces deux thèmes. J'aimerais donc un conseil pour débuter une série sans être trop en retard dans les histoires sur l'un ou l'autre. Merci par avance pour votre réponse. Eh bien alors, c'est pas une question très simple quand même.
Oui, mais moi j'ai une réponse assez simple.
Bah écoute, je t'en prie, vas-y.
Alors déjà, sur Batman, bonne nouvelle, Batman c'est vraiment le héros par excellence sur lequel tu peux commencer à peu près à n'importe quelle période et comprendre ce qui se passe sans trop de problèmes. Du moment que tu connais un peu les origines du personnage et elles sont rappelées à travers la plupart des épisodes, enfin voilà, c'est assez simple de commencer. Alors différentes pistes, tu peux commencer par exemple Batman Long Halloween qui était ressorti il y a très peu de temps chez Panini. Ou alors, par exemple, ce fameux Dark Victory qui ressort chez Urban Comics ce mois-ci.
Tu peux aussi prendre ce qui est sorti le mois dernier chez eux, le run de Scott Snyder, The Black Mirror,
Par exemple, tout à fait.
qui s'appelait, je ne sais plus d'ailleurs, j'ai plus le titre français en tête.
Oui, Sombre Reflet.
Très très bonne histoire de Batman. Après, si tu veux pas forcément Batman, parce qu'apparemment tu cherches des séries sans être trop en retard, dans le même genre, mais un petit peu différent, on peut te conseiller Moon Knight de Bendis, qui est sorti aussi il n'y a pas longtemps, en français, qui est un personnage qui est une sorte de clone de Batman mais fou.
Attends,
Enfin,
le Moon Knight est sorti en français?
ben je crois. Ou il va sortir bientôt.
Ou je crois qu'il n'est pas encore sorti, oui. Oui,
L'un ou l'autre.
parce
Bon,
que je
il
l'ai
va
pas
peut-être
vu.
bientôt
Je l'ai
sortir.
pas vu passer. Mais
Il va
il va
sortir
bientôt
d'ici quelques
sortir.
mois, ouais. Enfin, ça c'est pareil, c'est dans le style de personnage type Batman. Pareil, le Marvel Knights dont on a parlé, le kiosque Marvel Knights contient que des personnages qu'on appelle les street level characters, qui sont des personnages comme Batman, c'est-à-dire des personnages sans grand grand pouvoir. Ce sont pas des gens comme Superman ou Green Lantern qui sont capables de détruire une planète juste en pétant.
Comme
C'était
Steve,
un peu vrai.
comme Steve. De toute façon, il détruit tout en pétant la couche d'ozone. On a pris plein les naseaux cette année encore.
Salaud. Du coup, ouais, ça peut te plaire parce qu'il y a quand même trois séries. Alors, on a Ghost Rider qui, certes, est un personnage un peu plus puissant qu'un Daredevil ou qu'un Punisher, mais voilà, tu pourras peut-être trouver ton bonheur et ce sont des choses qui sont relativement abordables. Donc voilà, si tu veux une série qui commence et où il n'y a pas trop de numéros en retard, c'est le meilleur moyen de t'y mettre.
Enfin, en tout cas, voilà, Batman, c'est un concept, plus qu'une grande saga qui se poursuit.
Ouais.
Donc, c'est simple d'accès. Par contre, Avengers, c'est plus compliqué, sauf que on a un scénariste qui est dessus depuis des années, qui s'appelle Brian Michael Bendis, tu viens d'en parler avec Moon Knight Steve. Et nous te conseillons, enfin je te conseille personnellement, de peut-être commencer Avengers par le run de Brian Michael Bendis, que tu peux retrouver donc dans les albums
De
Deluxe,
luxe, ouais.
voilà, chez Panini. Alors, est-ce qu'on peut encore trouver tous les albums de luxe chez Panini, il y en a 5, le cinquième sort là, ce mois-ci. Est-ce qu'on peut encore tous les trouver? Je ne sais pas. Si tu es chanceux. Voilà.
Ouais, il y aura peut-être bientôt une réédition gold ou
Ouais,
quelque chose
ouais,
comme
ouais.
ça.
Mais de toute façon, je crois qu'ils ressortent quand même de temps en temps ce type d'album. Ceux qui marchent le plus, ils les ressortent. Donc, il y a des chances. Et puis...
Et puis bientôt le relaunch aussi chez DC. Et à ce moment-là, suivent peut-être la Justice League.
Bah, de toute façon, à partir du relaunch, oui, tu, à partir du relaunch, tu peux, je sais pas pourquoi je commence à parler comme ça, tu peux suivre à peu près tout ce que tu veux, hein, enfin, quoique.
Qu'on aime ou pas, je veux dire, c'est pas le problème. Si tu cherches une équipe dans le type Avengers, même si je suis pas convaincu par la série, pour quelqu'un qui voudrait commencer une série du type Avengers, je pense que Justice League est quelque chose d'adapté, quoi.
Oui, bah, par exemple, ça a conquis Nono. Voilà. Je sais pas si c'est un argument valable.
Non mais si, c'est si si, bah quelqu'un qui débute entre guillemets, même si je trouve qu'il débute plus vraiment, mais voilà,
Un
qui n'a
petit
pas,
genou, un petit débutant.
qui voilà, qui lit pas des comics depuis plus de 15 ans ou truc comme ça, voilà, prend son pied avec une série où finalement il découvre un peu des origines. Voilà, ça sort le mois proche, dans 2 mois, pardon. T'as commencé en mai, le relaunch chez Urban. C'est le moyen de pouvoir se mettre à quelque chose de nouveau, de pas être en retard sur une série. Si c'est vraiment ce qui t'intéresse, c'est d'avoir une série dans son ensemble, c'est sûr que commencer à faire les Avengers, et encore, ça va, les Avengers, il n'y a pas trop de... Les nouvelles versions, il n'y a pas trop de numéros encore, mais si tu prends par exemple les X-Men, ou même si bon, la série va s'arrêter bientôt et repartir au numéro 1, mais là voilà, on est au numéro 542, quoi. S'il y a vraiment l'ensemble de la série qui t'intéresse, effectivement, ça va être dur. Après, il y a
Mais...
des plus différents runs qui sont plus ou moins bons. J'essaie de chercher une autre équipe, façon un peu Avengers, qui pourrait aussi peut-être lui plaire, mais là, comme ça, j'en vois pas.
Bon, mais enfin, de toute façon, c'est déjà pas mal. Et puis, enfin, vaut mieux commencer par le modèle du genre. Donc, si tu veux commencer par les Avengers, lis-toi le run de Bendis. Prends l'un des deux luxe. Bon, de préférence en commençant par le premier, mais...
C'est certes, ils sont un peu chers, tu peux peut-être les trouver d'occasion dans les boutiques ou sur le net.
Ouais, ils avaient ressorti par exemple le tout premier arc de Bendis pour pas cher à l'époque dans les Incontournables. Alors
Oui,
si
je
tu es
vois.
chanceuse, je crois que c'est l'Incontournable numéro 6. Mais alors par contre, oui, il y en a eu plusieurs fois sur différentes années. Donc maintenant, on va savoir quelle année c'était. Mais
Une petite recherche sur le net et on trouve.
ouais.
Bon voilà, j'espère qu'on aura bien répondu à ta question. Je m'efforce de trouver une autre équipe, mais là vraiment, à part la Justice League et les Avengers, un truc qui est pas trop compliqué, parce qu'on va pas aller te conseiller de prendre les Defenders qui devraient pas trop tarder à sortir en français.
Non,
Parce que ça va être
non, non,
incompréhensible, ni même des choses comme Heroes for Hire. De toute façon, on n'a pas tout en français, et puis même, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant. C'est vrai que sorti du carcan des Avengers et des X-Men, il reste pas grand-chose chez Marvel. Hein. Il reste les Gars Fantastiques, et encore, ça ne plaît pas à tout le monde.
mais sinon, il y a la team de Comic City.
Ouais, quelles aventures ils vivent chaque semaine.
Oui, et puis une équipe qui s'agrandit petit à petit.
Je me demande où tu vas comme ça.
Ben, je sais pas, vers une conclusion peut-être?
Oui, bah oui, on va s'arrêter là parce qu'on a bien débordé sur le temps. Je pensais pas qu'on ferait une émission aussi longue,
Bah ouais, comme
encore une
d'habitude.
fois.
Et du coup, voilà, on remercie tous nos auditeurs de plus en plus nombreux, tous nos chroniqueurs de plus en plus nombreux aussi qui ne participent pas au Comic City, mais peut-être bientôt. T'as vu, ça veut rien dire tout ça. Et on se retrouve tous ensemble, bah,
Le mois prochain.
le mois prochain, puis surtout entre-temps dans des Comics Weekly, avec
Ouais.
effectivement ces fameux chroniqueurs, peut-être Sam, peut-être Nono, peut-être Jean-Lô, et puis les nouveaux, Kinged
Et Corbin.
et Corwin. Et est-ce qu'on a dit, est-ce qu'on a parlé de tout le monde? Je sais plus.
Et on a oublié Claire.
Et on a oublié Claire, mais c'est normal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On se retrouve sur Facebook, sur Twitter. Vous
Oui.
pouvez laisser des commentaires sur le site à
Parfait.
l'adresse comics.
Non, non, ça c'est le mail.
Ça c'est le mail. Oui, c'est
Le
vrai.
mail, faites comme Samuel qui nous envoie des mails, donc podcast à comiccity.fr. C'est une question, on y répond à l'antenne.
Voilà. Ou au pire des cas, on y répond d'une manière ou d'une autre.
Oui, si vraiment vous voulez pas que ce soit lu, vous nous précisez, on le lira pas à l'antenne. Et puis bien sûr, tous les anciens épisodes sur iTunes, voilà ce qui manquait.
Voilà.
Le tour est fait, on se quitte, vous avez un gros programme de lecture qui vous attend si vous prenez tout ce qu'on a dit qui était bien et pas bien.
Oula, ça c'était français cette phrase.
C'était français, hein, t'as vu ça?
Ouais.
Non mais ben, voilà,
que dire de
rien
plus,
qu'avec les sorties de ce mois-ci, vous avez de quoi lire, il y a de quoi contenter tout le monde. C'est ça qui est bon, le comics.
On dirait vraiment le mec, tu sais, à la foire qui essaye de vendre ses articles.
Et oui, en plus, on touche même pas de com. C'est pas beau, ça? On fait de la promo gratuite, monsieur. On est comme ça. On donne. On
Et Disco Saliaga sort de ce corps. Hein. On est comme ça ici, on donne. C'est ça aussi, Comic City. C'est savoir donner et donner envie de lire des comics. Bon, voilà.
Allez, on se retrouve le mois prochain pour un prochain Comic City et d'ici très bientôt pour un weekly.
Et alors là,
profitez du beau temps.
À part prout, je vois même plus quoi ajouter.
Profitez du beau temps et faites des enfants.
Ah,
j'ai rien lu.
C'est un appel. Bon, très bien.
Allez, au mois prochain.
Ah, c'était pourri. Mais alors, pire que tout. Alors là, je pense que c'était vraiment la conclusion la plus merdique de toutes les conclusions.
Oh putain.
Oh, c'était mais pitoyable.
Ouais,
pitoyable.
Je sais pas comment je vais éditer ça.
Mais... cadrer cette conclusion. Si on pouvait le faire, parce que physiquement c'est impossible, faudrait encadrer cette conclusion.
Non, mais je vais essayer d'éditer, on verra.
Non, 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 absolument pas. D'ailleurs, tu pourrais laisser même ces commentaires après la conclusion.
Parce que j'enregistre encore. J'ai pas encore mis stop. Mais là, je vais le faire d'ailleurs.